Europe 1.
Nous sommes le mercredi 6 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, peur sur l'école de la République. Europe 1 ouvre le dossier des pressions qui s'exercent sur le corps enseignant sur fond d'atteinte à la laïcité. À Paris, le proviseur du lycée Maurice Ravel vit sous protection judiciaire après avoir été menacé de mort pour islamophobie. Les Jeux Olympiques, alors après la polémique hier sur l'affiche officielle, on connaît le plan de sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs milliers de policiers, de gendarmes, des plongeurs, des mineurs et des drones. Tous les détails dans un instant. Et puis Donald Trump, super vainqueur du Super Tuesday aux États-Unis, la course à l'investiture tourne à la marche triomphale pour l'ex-président des États-Unis. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'affaire prend une telle ampleur que la ministre de l'Éducation est venue elle-même sur place hier, Nicole Belloubet, au soutien des enseignants du lycée Maurice Ravel à Paris et de son proviseur. À 6 mois de la retraite, il est pris dans la tempête pour avoir demandé à une élève de BTS de retirer son voile. Depuis, il est menacé de mort sur Internet. Louis Salé.
Une rumeur qui enfle et des menaces de mort sur fond de remise en cause de la laïcité. Ce scénario rappelle tristement celui qui a précédé l'assassinat de Samuel Paty. Nicole Belloubet s'est donc empressée de dénoncer hier les attaques dont fait l'objet ce proviseur.
Nous devons tous y être attentifs puisqu'on sait très bien ce qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, nous sommes très attentifs à ce type de situation.
Un soutien bienvenu dans un climat tendu. Le proviseur de Maurice Ravel bénéficie d'une protection fonctionnelle spéciale. Spécifique aux agents publics, d'autres chefs d'établissement ne cachent pas leurs inquiétudes, comme Kamel Haït Bouali, secrétaire académique du syndicat SGEN CFDT.
Nous sommes tous sous le choc qu'un collègue chef d'établissement puisse se faire menacer pour simplement appliquer des principes de laïcité. La charge émotionnelle est énorme. Parce qu'on se dit que ça peut arriver à n'importe qui. Donc nous ne sommes pas à l'abri.
Il a co-organisé lundi une manifestation qui a rassemblé près de 160 chefs d'établissement à Paris en soutien au proviseur du lycée Maurice Ravel.
Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1.
On connaît le plan de sécurisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Alors elle aura bien lieu sur la Seine, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. La jauge a rétréci sur l'hôtel de la sécurité. 326 000 spectateurs maximum. Une partie payante, une partie gratuite, mais sur invitation de l'État et des collectivités locales seulement. Jean-Baptiste Marty.
104 000 places en bas des quais, payantes, vendues par le comité d'organisation. 222 000 en haut, gratuites cette fois-ci, mais sur inscription auprès de certaines collectivités d'Île-de-France. L'identité de chaque spectateur inscrit sera vérifiée auprès des services de police en amont par un criblage. Comprenez une vérification des antécédents judiciaires pour prévenir toute menace. Un code QR sera ensuite délivré à chaque spectateur. Il devra être présenté aux forces de l'ordre pour passer les contrôles d'accès. Un périmètre sera d'ailleurs établi quelques jours avant l'événement pour contrôler chaque passant. Pour cela, 45 000 forces de l'ordre seront présentes ce soir-là, auxquelles il faut ajouter les 2 000 policiers municipaux et les 2 500 renforts de pays étrangers, soit au total environ 50 000 forces de l'ordre mobilisées. Un dispositif qui peut encore évoluer selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'exclut pas une diminution de cette jauge de spectateurs en cas d'événement majeur avant les Jeux Olympiques.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 est parmi les autres mesures de sécurité le jour de la cérémonie. Citons la fermeture de l'espace aérien entre 19h et minuit dans un rayon de 150 km autour de Paris.
Et pendant ce temps, la droite est vent debout contre l'affiche des Jeux. La polémique se prolonge.
Une affiche réalisée par le dessinateur Hugo Gattoni. Pas de drapeau français. La croix du dôme des Invalides a disparu alors qu'elle existe bel et bien dans la réalité. Quelle est l'explication, Jacques Serret?
Eh bien, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, a laissé libre cours à l'imagination d'Hugo Gattoni et cet illustrateur parisien dit ne pas vouloir représenter les objets ou bâtiments de manière conforme. Je les évoque tels qu'ils m'apparaissent à l'esprit et sans arrière-pensée, explique-t-il après avoir consacré plus de 2000 heures de travail à ses affiches. Mais la liberté de création de l'artiste a ses limites et c'est le code des Jeux Olympiques qui les fixe. L'absence de drapeau tricolore résulte de considérations sportives. Aucune nationalité ne doit être favorisée. Que ce soit à Tokyo, à Rio ou à Londres ces dernières années, aucun drapeau n'a pris place sur les précédentes affiches des JO. L'absence de croix peut aussi trouver son explication dans la charte des Olympiades qui proscrit, je cite, « toute démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale ». Une règle toutefois loin d'être systématiquement appliquée. Faut-il y voir donc une volonté politique ? Emmanuel Macron, qui suit de très près la préparation de l'événement, n'est pas intervenu, assure son entourage.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
L'État ne doit pas devenir une pompe à fric. La déclaration choc du ministre de l'économie ce matin dans les colonnes du journal Le Monde.
Et ce n'est pas la seule. Les 10 milliards d'euros d'économies engagées, sans doute insuffisants. Bruno Le Maire annonce d'autres étapes à venir. Ça passera peut-être par un budget rectificatif à l'été. Autre annonce, la suppression de tous les CERFA d'ici 2030. On parle ici des formulaires administratifs.
L'actualité à l'étranger, dominée par le Super Tuesday aux États-Unis, la course à l'investiture chez démocrates et républicains. Première information, Donald Trump manque le grand chelem d'un rien.
L'ex-président remporte 12 États sur 15, un seul pour sa rivale Nikki Haley. Dans le camp démocrate, Joe Biden fait également la course en tête. Le remake du duel de la présidentielle 2020 se dessine. On en reparle dans le journal de 8 heures.
Et nous prenons la direction de l'État du Texas où Donald Trump est déclaré vainqueur. Alors là, sans surprise et pour cause.
Ah ben oui, l'ex-président fait de la lutte contre le wokisme et le politiquement correct l'une de ses priorités. La contre-offensive s'organise avec l'ouverture à la rentrée prochaine de la première université anti-woke. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Austin, Sébastien Lebelzik.
Les salles de cours sont encore la peinture. La rentrée n'aura lieu que dans 6 mois, mais déjà les professeurs s'activent dans ce nouveau temple de l'éducation, apolitique et tourné vers le débat contradictoire. Pano Canelos, président de l'université d'Austin.
Tout est trop politique maintenant. Et je pense que l'université aussi a cette tentation dorénavant de se voir comme un acteur politique avec un programme social.
200 millions d'euros ont été récoltés auprès de donateurs privés pour ouvrir cette université unique aux États-Unis et qui promeut la liberté d'expression. Patrick Gray est professeur de littérature.
Ce n'est pas un secret. Les universités sont dominées par les idées d'extrême gauche. Dans ce moment historique, il y a un programme politique connu sous le nom de woke que certains, de façon très zélée, veulent imposer aux étudiants.
Pour lui, l'université américaine traverse une révolution culturelle. Elle veut effacer le passé, tirer un trait sur l'histoire, avec le risque de transformer l'enseignement en arme politique. À Austin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et le football, Paris peut toujours compter sur son Kylian. L'attaquant qualifie le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-1 hier soir face à la Real Sociedad.
Et qui a marqué les débuts, Dimitri ?
Kiki.
Bien sûr, merci Anissa, je vois que vous suivez. Le plus fort, c'est évidemment Kylian, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un Kylian Mbappé étincelant qui a douché les espoirs des joueurs basques. L'attaquant de 25 ans qui a joué l'intégralité du match a réalisé un doublé. Un premier but à la 15e minute grâce à un enchaînement magnifique, une feinte et une frappe puissante. Un deuxième but en seconde mi-temps. Il fallait rester éveillé, souligne Kylian Mbappé au micro de Canal+.
On savait tout de suite que il fallait pas dormir parce que voilà, 2-0 c'est un score un peu traître. S'ils avaient ouvert le score, voilà, ils auraient poussé avec le public, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. C'est ce qu'on a fait et on est très content de retourner au quart de finale.
Et après avoir été peu utilisé par son entraîneur lors des 3 derniers matchs, Kylian Mbappé a répondu aux polémiques sur le terrain, mais aussi après la rencontre devant les caméras. La star assure ne pas être en froid avec Luis Enrique.
Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un.
Les Parisiens de Kylian Mbappé connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions le 15 mars prochain.
Cyril de la Morinerie et le Bayern Munich rejoignent lui aussi les quarts de finale. Les Bavarois se sont imposés 3-0 face à la Lazio Rome.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito Écho.
On va parler des 10 milliards d'économies demandées par Bruno Le Maire. Est-ce que c'est le retour de l'austérité ? Bon, pas vraiment, nous expliquera Nicolas Bouzou dans un instant. On verra où vont s'opérer les coupes budgétaires. Ce sera juste après l'invité actuel d'Europe 1 Matin, l'enseignant Stéphane Didier. Alors lui a connu la diffamation, les menaces de mort dans son lycée, à l'image de ce que vit le proviseur actuellement du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement. A tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur d'histoire géo et d'éducation civique, Stéphane Didier.
Bonjour Stéphane Didier.
Bonjour Monsieur Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Alors histoire géo, la même discipline qu'enseignait Samuel Paty, et l'année de son assassinat en 2020, vous aussi avez eu maille à partir, Stéphane Didier. Alors vous, c'était avec une mère d'élèves musulmane qui vous a fait comprendre que le sort de Samuel Paty pourrait être le vôtre. Et c'est encore à Samuel Paty que l'on pense à propos des événements récents au lycée Maurice Ravel, où le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux depuis qu'il a demandé à une élève de BTS de retirer son voile. La ministre de l'Éducation s'est rendue dans l'établissement hier parce que le climat est très tendu depuis une semaine. Les élèves sont persuadés que le proviseur a frappé l'élève en question, alors même que celle-ci a reconnu que ça n'était jamais arrivé. Que vous inspire cette affaire, Stéphane Didier ?
Il m'inspire une certaine continuité qui a commencé il y a bien longtemps dans l'affaire de Creil en 1989. On assiste actuellement à une offensive islamique qui procède par des coups de boutoir successifs et les lois de 2004 ne parviennent pas à juguler ou même à ralentir.
Donc la loi de 2004, je rappelle, c'est l'interdiction du voile à l'école, c'est très clair.
Tout à fait. C'est la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les écoles, collèges, lycées publics le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Mais ce que je veux dire, on est dans une stratégie qui est basée sur la prédication et qui a été précisée depuis bien longtemps par les frères musulmans, notamment par un cheikh égyptien qui s'appelait Youssef Al-Qaradawi en 1995, qui lors d'un congrès aux États-Unis qui proclame « Nous allons conquérir l'Europe et l'Amérique, non pas par l'épée, mais par la prédication », ce qu'il appelle la dawa. Et donc, ils utilisent la prédication en utilisant des imams, soit dans les mosquées, comme celui qui a été expulsé de France comme Imam Majoubi, ou bien des entrepreneurs culturels de l'islamisme. Cette expression est de Gilles Kepel dans son livre « Le prophète et la pandémie et prophète en son pays », dont le champ principal s'est mis en place sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mmh. C'est-à-dire que nos élèves de confession musulmane ont des contacts à partir de leur chambre, dans leur chambre, sur Internet, via des imams autoproclamés, et ils sont absorbés par cette propagande islamiste, et ce qui fait que, bien, régulièrement, on a des coups de boutoir qui sont assénés, ils essayent de faire sauter les digues des lois sur la liberté d'expression ou bien la laïcité. Mmh. Et là, nous sommes, le contexte actuellement fait que nous sommes à la veille du mois de Ramadan de 2024. Et ce mois de Ramadan, il faut le savoir, les terroristes islamistes profitent de ce contexte-là pour ouvrir une offensive. Et vous semblez
en tout cas connaître cette histoire absolument par cœur, Stéphane. Oui. Didier, alors votre histoire à vous, elle est un peu différente, c'est-à-dire c'est qu'au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, il y a toute cette polémique autour de l'organisation d'un cours sur la laïcité que vous demande d'organiser le ministère avant de se dire finalement non, on fera juste une minute de silence. Vous maintenez ce cours que vous avez préparé extrêmement sérieusement, et après ce cours, en fait, vous allez avoir à partir avec une élève qui va vous rendre une copie blanche lors d'un devoir sur un tout autre sujet. En l'occurrence, c'était un devoir sur le Troisième Reich. Et là, c'est la maman de cet élève qui va venir vous voir, qui dit « Vous saquez ma fille parce que vous êtes raciste. Attention, substance, vous savez ce qui est arrivé à Samuel Paty. Vous, dans votre histoire, on ne vous a pas soutenu. Le ministre de l'Éducation de l'époque n'est pas venu vous voir, comme on a vu Nicole Belloubet se rendre au lycée Maurice Ravel hier. »
Absolument. Et donc à l'époque, c'était Monsieur Blanquer qui était ministre de l'Éducation, mais j'ai même pas été soutenu ni par mon chef d'établissement, d'accord, qui voulait pas entendre parler de cette histoire, parce que il faut savoir qu'un chef d'établissement, il s'expose lui aussi. Normalement, il y a une convention qui est signée entre l'Éducation nationale et la justice. C'est un bulletin officiel de l'Éducation nationale. Et le chef d'établissement, il est tenu, je dis bien qu'il est tenu, oui, de soutenir son professeur, et il doit accompagner le professeur menacé dans des démarches de dépôt de plainte, etc. Or, lui, il s'est dégonflé en quelque sorte. Il a fait preuve d'une lâcheté absolument épouvantable. Je me suis retrouvé seul, exposé face à cette mère de famille. Je précise ensuite que j'ai eu des menaces téléphoniques plus tard, En tout, j'ai déposé à peu près 4 plaintes pour menaces téléphoniques et une contre cette mère de famille.
Ouais.
Donc, ça a duré plus de 6 mois dans un quartier, dans un collège de quartier, c'est le collège Claude Boucher à Cognac, dont tout le monde savait, et j'étais bien informé, qu'il y avait beaucoup de fichiers pour radicalisation.
Ouais, alors là, dans la situation présente, il se trouve que, alors la ministre, on l'a dit, s'est rendue sur place, on a vu 160 proviseurs et principales de collèges hier se rassembler à Place de la Sorbonne à Paris pour dire non, ça suffit, ok, on est à portée de baffe, hein, comme les maires, mais c'est intolérable. Et il y a quelque chose qui me frappe, moi, à titre particulier, dans cette affaire Maurice Ravel, c'est la mise en équivalence des paroles. La parole de l'élève vaut celle du corps enseignant, Stéphane Didier.
Alors ça, il faut remonter au texte du code de l'éducation. Il y a dans le code de l'éducation un alinéa qui précise que la parole, je cite, hein, la parole de l'élève doit être entendue. Donc à partir de là, d'accord, ça met une équivalence effectivement entre la parole de l'enseignant et la parole de l'élève. Il faut ajouter à cela qu'à partir de 2012, il y a eu une politique, à l'époque, le ministre de l'Éducation était Vincent Peillon, qui était une politique éducative qui était basée sur la bienveillance. Et dans la bienveillance, l'esprit de ce texte-là était d'écouter l'élève ce qu'il avait à dire, d'accord, et de tenir compte de ses propos. Or, on arrive à une situation qui est dangereuse, où la parole de l'élève a été sacralisée. Et on sait très bien que dans des affaires d'atteinte à la laïcité, ça a été démontré. Moi, l'élève avait menti sur ma part concernant mon affaire en disant que j'avais tenu des propos islamophobes, etc. Donc, le mensonge, on tient compte de ce mensonge, on le met sur un pied d'égalité face à la parole de l'enseignant. Et donc ensuite, l'enseignant se retrouve dans une situation où il est assigné à comparaître devant les parents. Mais c'est une assignation à comparaître, hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, et il doit s'expliquer sur les faits qui se sont passés dans la salle de classe ou bien dans l'établissement scolaire. Donc là, on est dans une situation qui est extrêmement grave, c'est-à-dire que le fonctionnaire, d'accord, on ne tient plus compte de sa parole, d'accord, et on le met sur un pied d'égalité face à des pratiques de prosélytisme religieux. Et de ce fait, il se trouve dans une situation de fragilité.
Merci Stéphane Didier de votre témoignage ce matin sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes professeur d'histoire géo. Alors, quelque part dans le sud-ouest, on précisera pas où, parce que vous avez demandé votre mutation.
Oui,
pour votre tranquillité. Merci en tout cas.
Je voulais ajouter une dernière petite chose.
Très, très brièvement.
Brièvement, il serait temps que l'éducation nationale prenne conscience du danger auquel s'exposent les enseignants et puis les proviseurs. Et actuellement, je prépare un projet d'association, si vous voulez, qui va permettre de compenser et d'acter pour protéger les fonctionnaires face à des menaces islamistes avec des personnes très connues. Voilà. Et je pense qu'une association comme celle-ci a besoin d'être vivante pour pouvoir... pour pouvoir protéger les enseignants.
On va suivre ça et on aura l'occasion très certainement d'en reparler sur Europe 1. Merci à vous Stéphane Didier, bonne journée.
Il est 7h20, très bon début de journée avec Europe 1.
L'édito éco.
7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Nicolas.
Alors on le disait, Bruno Le Maire s'exprime ce matin dans le journal Le Monde. L'État n'est pas une pompe à fric, dit le ministre, qui réclame 10 milliards d'économies immédiates à tous les ministères. Sur quoi ces économies vont-elles porter, Nicolas?
Ouais, alors je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup d'artifices budgétaires dans ce qu'il va être annoncé ces prochaines heures. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous expliquer comment l'État peut dire qu'il fait des économies sans en faire, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Alors l'État peut par exemple procéder à la diminution des réserves de précaution. Les réserves de précaution, c'est de l'argent qui est épargné par les ministères pour l'utiliser en cas d'imprévu, hein, en cas de dépenses exceptionnelles. Eh bien, on peut réduire ces réserves de précaution. On peut pratiquer ce qu'on appelle des reports de charges. Alors ça permet d'étaler les paiements, hein, dans le temps, les paiements des fournisseurs de l'État. Le ministère de la Défense fait ça.
On paye les entreprises beaucoup plus tard.
Ouais, bah c'est un mauvais coup justement pour les entreprises et les industriels dans le domaine de la défense, on en a pourtant bien besoin en ce moment, hein. On peut procéder à des reports d'opérations immobilières. Au lieu de construire ou d'acheter des bâtiments cette année, eh ben on le fera l'année prochaine. C'est ce que va faire le ministère de la Recherche. Vous pouvez aussi tout simplement reporter des recrutements. Là encore, au lieu de les faire en 2024, on les fera en 2025. C'est ce que va faire l'éducation nationale.
Mais est-ce qu'il va y avoir de vraies coupes budgétaires?
Un peu, ouais. Alors la plus conséquente, c'est MaPrimeRénov', hein. 1 milliard d'euros en moins. Bon, cela dit, en 2023, on n'était pas arrivé à dépenser toute l'enveloppe, hein, de MaPrimeRénov', donc on s'est dit qu'on pouvait réduire l'augmentation en 2024. Franchement, ça me semble légitime. Le ministère du Travail, hein, sera mis à contribution. Un reste à charge sera introduit sur les comptes personnels formation, hein, dont disposent les actifs. Le budget des centres de formation des apprentis seront réduits. Tout ça va représenter 1 milliard d'euros. Le budget de la culture va diminuer, mais enfin, très honnêtement, il avait beaucoup augmenté depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Les vraies économies, hein, ça va être de l'ordre de 3-4 milliards d'euros pour une dépense de l'État, je le rappelle, qui était en 2023 de 455 milliards d'euros et un déficit de 170 milliards d'euros. Vous voyez, ce sont des mini économies.
Oui, c'est pas du tout de l'austérité, en fait.
Non. Et d'ailleurs, l'État a commencé l'année 2024 avec un déficit sur le seul mois de janvier de 26 milliards. Alors c'est simple, on n'avait jamais connu ça. Et puis ce que l'on a appris aussi ces derniers jours, c'est que l'année dernière, la fonction publique, alors l'État, les collectivités locales, l'hôpital, a créé 60 000 postes de fonctionnaires. C'est la plus forte hausse depuis 2013. Il y a désormais 6 millions de fonctionnaires dans notre pays. Donc en effet, ne me parlez pas d'austérité, ne me parlez pas de rigueur. Vous pouvez me parler en revanche de lâcheté financière, ça je veux bien.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Europe 1.
Cet après-midi sur Europe 1, il y aura comme un air d'aventure avec Sophie Davant.
Émission spéciale, Sophie Davant et sa bande de copains vous emmènent visiter les endroits les plus reculés du monde avec l'explorateur Jean-Louis Etienne, premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. L'aventure est au rendez-vous, vous pourrez aussi tenter de décrocher le jackpot, ça aussi c'est une aventure, 700 euros dans le jackpot aujourd'hui. Vous envoyez Sophie par SMS au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus coût du SMS. L'aventure, c'est de 16h à 18h sur Europe 1.
7h23 et merci à vous d'écouter Europe 1. Nous sommes le mercredi 6 mars, l'essentiel de l'actualité. Le journal permanent Christophe Lamar.
2024 pourrait ressembler à 2020 aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump donnaient large vainqueur du Super Tuesday, la course à l'investiture pour la présidentielle chez les démocrates et les républicains. La France insoumise au cœur d'une nouvelle affaire de violences faites aux femmes. La députée LFI Ercilia Soudet a porté plainte pour viol contre son compagnon, lui aussi militant du parti d'extrême gauche. Il est actuellement en garde à vue. Le football, Paris qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-1 sur la Real Sociedad hier soir. Le Bayern Munich rejoint lui aussi l'écart après son succès 3-0 sur la Lazio Rome.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Il y a 25 ans, le 6 mars 99, l'acteur Jacques Villeray reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Dîner de cons du réalisateur Francis Weber. Le film a réalisé 9 millions d'entrées lors d'Autriche.
Oui, Jacques Villeray, avec son visage rond comme la lune, son côté naïf et gaffeur, crève l'écran dans le rôle de François Pignon dans Le Dîner de cons.
Il a marché à fond, le gars.
Et ma femme?
Ouais.
Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme.
À la boulette.
Ce soir du 6 mars 1999, il reçoit donc le César du meilleur acteur et répond au micro d'Europe 1.
Donner un César à quelqu'un qui a joué dans une franche comédie, c'est plaisant. Si vous regardez bien, combien il y a d'adjectifs qu'on peut mettre devant con? Petit con, grand con, sale con, mauvais con, méchant con, gentil con. C'est bien qu'on n'arrive pas à le définir.
Dans la vie pourtant, ceux qui le connaissent racontent que Jacques Villeray est mélancolique, angoissé, perfectionniste, à l'opposé de son personnage. Il reconnaît lui-même qu'il peut entrer dans des colères folles si son trait d'humour dans une pièce de théâtre ou dans un film ne tombe pas au millimètre.
De toute façon, tous les comiques sont obsessionnels. De Funès pouvait recommencer, faire 20 prises pour un e-muet.
Mais Jacques Villeray doit aussi affronter pendant des années des problèmes d'alcool, de tabac, de dépression, de solitude, raconte à sa mort en 2005 le réalisateur Francis Weber.
On savait qu'il était toujours en train de flirter comme ça avec la tragédie, et en même temps c'était l'homme le plus drôle du monde, si vous voulez.
À 18 ans, avec son bac en poche, il était monté à Paris pour suivre des cours de théâtre avant d'intégrer le conservatoire où il est remarqué pour sa rondeur. Jacques Villeray, c'est aussi l'acteur de La Soupe aux Choux avec Louis de Funès, des Enfants du Marais ou du Dîner de cons qu'il a joué au théâtre avant de le tourner au cinéma. Et comment faire quand on a beaucoup connu le succès? Jacques Villeray répond sur Europe 1 en l'an 2000. Écoutez.
On n'a jamais envie de redescendre. Pour le moins, on a envie d'être sur la même marche. Et c'est vrai que le succès, ça peut faire peur pour ce qui doit venir après. D'ailleurs, c'est pas rare que des gens, après un énorme succès, pédalent un peu dans je sais pas comment on dit, la semoule ou la choucroute.
Dans la choucroute, toi, dans les deux.
Décédé à l'âge de 53 ans, Jacques Villeray a tourné en 30 ans dans 70 films.
À demain, monsieur Leblanc!
Merci, Laure d'Autriche, pour ces souvenirs de Jacques Villeray. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour rouvre.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre vos vacances en famille pour 4 personnes en pension complète. Il ne vous reste plus qu'à faire les valises et à choisir la destination parmi l'une des 100 destinations VVF dans les plus belles régions de France. Les villages vacances VVF, les résidences ou encore les campings, tous à taille humaine avec la nature comme décor, au programme du sport, de belles rencontres, des clubs enfants gratuits. Alors ça, c'est pratique à partir de 3 mois et jusqu'à 17 ans avec des activités à faire en famille à découvrir sur le www.vvf.fr.
La question, la voici. Qui est le réalisateur du Dîner de cons? Est-ce Francis Weber ou bien Patrice Lecomte?
Pour tenter votre chance et peut-être partir en vacances en pension complète à 4, envoyez vacances au pluriel au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Dominique Reynier sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le politologue, directeur général de la Fondapol, on pourra parler avec lui du climat politique dans la perspective des européennes ou encore des polémiques olympiques. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et on s'intéresse ce matin aux petites mains du trafic de drogue. Information Europe 1, un dealer sur 5 à Paris est un mineur. Et vous l'entendrez, selon certains policiers, les films et séries ont une responsabilité dans ce phénomène. Nous parlerons également du pari raté de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le ministre de l'Intérieur a présenté hier le plan de sécurité du 26 juillet prochain avec des spectateurs qui seront triés sur le volet. L'école et les enseignants toujours plus menacés alors que le Sénat s'apprête à publier aujourd'hui un rapport sur les violences envers les profs. Vous entendrez le témoignage d'une enseignante menacée sur les réseaux sociaux et toujours sous le choc. Et puis nous irons en fin d'édition à Nantes où les fans de heavy metal ont pu rencontrer hier l'une des idoles du genre, le chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, 65 ans. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et tout d'abord ce chiffre qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Plus de 2000 mineurs mis en cause pour usage, revente ou trafic de stupéfiants en 2023 à Paris. William Molinier, ces chiffres inquiétants ne baissent pas depuis 2021, malgré la prévention faite chaque année auprès de ce public.
Un dealer parisien sur 5 a moins de 18 ans. Parmi eux, un quart est âgé de 13 à 15 ans. Ils sont dans l'immense majorité des garçons, puisque les filles ne représentent que 4% des mises en cause pour usage et trafic de stupéfiants. Sur les points de deal, les mineurs sont utilisés comme des petites mains, guetteurs, rabatteurs ou livreurs, comme le constate le commissaire Guillaume Batigne, chef de la brigade des stupéfiants, la police judiciaire parisienne.
La logique des trafiquants est d'avoir des personnes qui sont payées à la tâche ou à l'acte et qui sont facilement interchangeables en cas d'interpellation, puisque la minorité pénale conduit à ce que la répression soit moins lourde que pour des majeurs.
Quand ils sont condamnés, la justice impose à ces enfants dealers des stages de sensibilisation dont certains sont animés par Philippe Barraud, commandant à la brigade des stupes.
Ce changement, c'est la banalisation des produits et aussi la banalisation d'un trafiquant qui peut être finalement un chic type, qui peut être un modèle de réussite sociale, un modèle d'intégration dans une sorte de modèle d'entreprise. La difficulté, c'est ça, c'est de leur montrer que c'est pas une entreprise, que c'est pas un travail.
Cette prévention se heurte aujourd'hui à l'image des dealers véhiculés par les films ou les séries policières. Hier, les premiers rôles revenaient aux policiers, Julie Lescaut ou encore Navarro. Aujourd'hui, ce sont les trafiquants qui sont en haut de l'affiche avec The Wire, Narcos ou Breaking Bad.
William Molinier pour Europe 1.
Retour à la réalité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le 26 juillet prochain, on sera bien loin de la fête gratuite et populaire promise par Emmanuel Macron.
La France avait rêvé d'une cérémonie avec 1 million de spectateurs sur les quais de Seine pour voir défiler les délégations d'athlètes sur les bateaux-mouches. Sécurité oblige, il n'y aura au final que 300 000 spectateurs dont l'identité sera passée au crible par les services de police, comme l'a expliqué hier soir à la télévision le ministre de l'Intérieur.
Si des gens présentent un danger particulier et si nous avons des informations qui nous montrent qu'ils peuvent passer à l'acte antiterroriste, chacun comprendra que l'État prendra ses responsabilités. En tout cas, je les prendrai et je protégerai les Français. Par ailleurs, tous ceux qui porteront la flamme, tous les bénévoles qui vont aider les Jeux Olympiques, les centaines de milliers de personnes qui vont être dans les agents de sécurité privée, qui vont organiser ce magnifique événement dans 44 villes en France, vont tous être criblés par l'État. Et effectivement, ceux qui sont étrangers en situation irrégulière, ceux qui sont un service de renseignement, seront retirés, chacun le comprendra. Ce sont des règles dures, mais je les assume pour protéger les Français.
Gérald Darmanin, hier soir à la télévision, qui a également confirmé la fermeture de l'espace aérien sur 100 km autour de Paris le 26 juillet et le déploiement de 45 000 membres des forces de l'ordre en Île-de-France. L'école et les enseignants de plus en plus menacés en France. Le Sénat publie aujourd'hui les conclusions d'un rapport sur les signalements et le traitement des violences sur les enseignants. Un rapport qui trouve un triste écho dans l'actualité alors que le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris est placé sous protection administrative. Il est menacé de mort sur les réseaux sociaux pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile islamique au sein de l'établissement. Des menaces dont a aussi été victime la professeure que vous allez entendre. Elle témoigne anonymement ce matin sur Europe 1, toujours sous le choc, 2 ans après avoir eu, je cite, « peur pour sa vie » après avoir été menacée par une élève de confession musulmane.
Lorsque j'ai abordé la thématique de la laïcité, par exemple, et que j'ai émis l'idée qu'il puisse exister des femmes imams, j'ai senti qu'elle était complètement remontée. Des élèves sont venus nous prévenir, avec ma collègue, puisque nous étions deux, de ce qu'elle postait sur les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence. Elle expliquait que ses professeurs mettaient en péril sa religion. Voilà ce qu'elle disait de nous. Notre hantise, c'était qu'elle nous nomme, ou qu'elle nomme l'établissement. Ce qu'elle n'a jamais fait de manière publique sur TikTok, mais qu'elle a fait en message privé. Et ça nous a paru suffisamment alarmant pour qu'on demande une protection ce qu'on appelle fonctionnel, c'est pouvoir demander l'aide d'un avocat, un accompagnement juridique et psychologique aussi, puisque nous étions quand même dans un contexte de peur pour notre vie. Ça s'est arrêté parce que la jeune fille a changé d'établissement, mais je vous assure que je suis devenue très vigilante. Je fais attention à tout ce que je dis. Voilà, je fais attention maintenant.
Le témoignage édifiant ce matin de cette enseignante menacée, elle était au micro Europe 1 de Louis Salé. La France insoumise, secouée par un scandale de violence conjugale, la députée Ercilia Soudé porte plainte contre son compagnon Damien Cassé, élu insoumis en Seine-et-Marne. Il est en garde à vue depuis hier soir. Direction Nantes, à présent Dimitri, où l'une des légendes du métal était en séance dédicace hier. Je crois que c'est votre style de musique, pour pas révéler trop, mais Bruce Dickinson, le chanteur du groupe britannique mythique Iron Maiden, a rencontré ses fans hier en dédicace donc pour son nouvel album solo, The Mandrake Project. Des fans ravis, vous allez l'entendre, d'avoir pu rencontrer le leader du groupe qui a bercé leur adolescence. Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1.
Ça y est, on est passé à la dédicace. 30 ans d'attente, 3 heures de longueur et 30 secondes de pur bonheur.
Et le pur bonheur pour Cédric, c'est d'avoir pu enfin approcher et serrer la main de Bruce Dickinson. Hey, si le chanteur était à Nantes hier pour présenter son nouvel album solo pour les fans, Dickinson reste d'abord et avant tout le leader d'Iron Maiden, ce groupe mythique qui a su traverser les générations en 4 décennies, 100 millions de disques vendus, plus d'une vingtaine de tournées mondiales, bref, dans la file d'attente des quadras, des quinquagénaires qui replongent dans l'adolescence.
C'était le premier groupe de métal que j'ai écouté à l'âge de 13 ans et je suis toujours fan à 46 ans.
Ma mère était allée voir Iron Maiden pendant qu'elle était enceinte de moi. Puis depuis, je suis tatoué Iron Maiden, je vis Iron Maiden.
Les premières cassettes avec les copains, les mobilettes et le hard rock des années 80. Ça traversera les âges jusqu'au bout.
La preuve, dans la foule, on croise aussi quelques enfants.
Iron Maiden, je suis fan.
Des fans qui pourront se retrouver fin juin, non loin d'ici à Clisson, où Bruce Dickinson a prévu d'enflammer le Hellfest.
Merci à vous.
Qui se tiendra du 27 au 30 juin. On prend des places, Dimitri.
C'est encore plus volontiers. Efficace qu'un bon café noir. Ça arrive, ça fait du bien.
Je sais qu'il y en a pour qui c'est trop, mais pour qui c'est pas, d'autres pour qui ça n'est pas assez. Bref, il y en a, il en faut pour tous les goûts. Merci beaucoup, Nina Pavan. Ce fut un plaisir. Dans 3 minutes, nous irons en Haïti où des milliers de détenus sont évadés hier. Des gangs armés ont attaqué la prison de Port-au-Prince. Et comme le seigneur de guerre d'une puissance ennemie, un chef de gang est en train de déclarer la guerre à l'État haïtien. Vincent Hervouette se demande si Haïti existe toujours dans un instant sur Europe 1.
Une chose est sûre, ce qui réveille bien le matin, c'est Europe 1 matin et vous avez bien fait de nous choisir. Il est 7h39, bon début de journée. Restez avec nous sur Europe 1 dans moins d'une minute, le Club Culture avec les sorties ciné de la semaine et le livre du jour. À tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Vous faites quoi aujourd'hui pour le déjeuner? Parce que sur Europe 1, on vous donne un plan de fou.
Tous les mercredis dans les restaurants IKEA, c'est Crazy Mercredi. Les plats chauds sont à moitié prix avec la carte IKEA Family. Et c'est jusqu'au 28 août. IKEA. Crazy Mercredi, les mercredis fous. Pour votre santé, évitez de grignoter.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, les 400 grammes d'amandes bio sont à 4,99€ et il y a moins 20% sur tous les fruits secs, en vrac et en sachet. Ça, c'est pas de la promo à la noix. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Voir conditions sur laviclaire.com. Amandes décortiquées bio en sachet 400 grammes origine Espagne.
0,906€ le litre de E85. Voilà. C'est tout. Le litre de carburant à moins de 1 euro.
À ce prix-là, tout est dit. En mars, avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Prix moyen national pour janvier 2024, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1. La papesse de la théorie du genre est en France. C'est l'américaine Judith Butler. Alors, personne ne la connaît, ou presque, je pense, dans ce studio. C'est pourtant quelqu'un de très important. Elle donne une conférence ce soir à Normal Sup, l'une des fabriques des élites françaises. On va en parler avec Vincent Trémollet de Villers. Ce sera après le Club Culture d'Europe 1 Matin. Au sommaire, ce jour, mercredi, sortie ciné. Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour tout le monde, bonjour.
On va voir quoi cette semaine?
Alors, notamment un film avec Agnès Jaoui, très poignant, La vie de ma mère.
Allez, à tout de suite. Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, un true crime incroyable des années 70.
Donc on voit ça dans un instant. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri.
Vincent, les gangs menacent de plonger Haïti dans la guerre civile. L'état d'urgence a été décrété. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à huis clos tout à l'heure.
Oui, c'est un tsunami de violence qui s'est abattu sur Port-au-Prince jeudi dernier, quand Barbecue a lancé l'offensive contre l'État. Du temps où il était policier, il s'appelait Jimmy Chérizier. En Haïti, la police est parfois un gang parmi les autres. On en compte 300 qui rackettent les habitants et s'entretuent, qui terrorisent et paralysent la capitale. Chérizier a servi 15 ans en se servant. Et puis, il est devenu Barbecue, celui qui règne sur Delmas, un faubourg, et sur la famille G9, le plus puissant des groupes armés. Le Premier ministre par intérim s'appelle Ariel Henry. Il fait semblant de gouverner depuis que le président Moïse Jouvenel a été fusillé dans son lit par une bande de mercenaires. Jeudi dernier, le Premier ministre est parti pour le Kenya, le seul pays qui ait répondu à l'appel au secours de l'ONU pour déployer une force de police en Haïti. Barbecue n'aime pas la concurrence, il ne veut pas de 1000 policier kényan chez lui. Il a donc décrété la déchéance du Premier ministre.
Et il a lancé ses troupes à l'assaut des bâtiments publics.
Alors les commissariats ont été les premiers à partir en fumée, mais aussi les hôpitaux, les ministères, des bandes armées ont pris le contrôle de pans entiers du pays. Tout ce chaos préparait le véritable objectif, l'attaque du pénitencier central et de la prison de Croix-des-Bousquets. 4000 prisonniers libérés et à part quelques dizaines aussitôt assassinés, c'est l'armée de Barbecue qui se prend pour Pancho Villa.
Mais dans la foulée, ils ont tenté de prendre le contrôle de l'aéroport.
Alors ils ont été repoussés par l'armée, mais les compagnies aériennes ont suspendu tous les vols. Fermeture de l'aéroport Toussaint Louverture. Tout un symbole. Le ministre qui assure l'intérim de Premier ministre intérimaire a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. La frontière est bouclée et l'avenir est bouché. Ariel Henry, qui aurait dû quitter ses fonctions le mois dernier, se retrouve de facto à la retraite à l'étranger ou en exil. S'il ne démissionne pas, Barbecue a annoncé cette nuit la guerre civile et un génocide. 15 000 habitants ont déjà fui leur domicile, les autres sont barricadés dans leur quartier. Et le comble, c'est qu'hier, des commerçants ont timidement rouvert, des tap-tap ont recommencé à circuler, on s'habitue à tout, et les Haïtiens sont habitués aux gangs. Alors dire ça, c'est peu dire, parce que il faudrait décrire les guerres meurtrières, le kidnapping au coin de la rue, le viol systématique des filles, la peur qui mine les familles, la vie si précaire, la misère sur laquelle prospèrent des ONG, la corruption générale, la drogue et le vaudou qui en est une autre tout aussi infernale. Et bien sûr, 50% de malnutrition, les trois quarts des enfants qui ne vont pas à l'école.
Ahurissant. L'État haïtien, Vincent, est à genoux, incapable d'organiser des élections depuis 2016. Qu'est-ce que les gangs veulent de plus?
Bien, la coalition des voyous s'appelle le Vivre ensemble, c'est pas de l'humour noir. Vivre ensemble, alors qu'en général, ils s'appliquent à mourir ensemble en s'entretuant. Comme ils régentent leur fief, ils prétendent qu'ils sont le peuple en armes et ils refusent de rendre des comptes à l'ONU ou à une police étrangère. C'est le triomphe de l'anarchie, considéré comme l'addition de mini-dictatures. Des experts dénoncent la main des cartels mexicains derrière le vivre ensemble. Les narcotrafiquants décidés à faire d'Haïti un hub régional pour l'exportation de la drogue vers l'Europe et les États-Unis. Haïti qui a dégringolé tous les escaliers du malheur et le no man's land idéal. Plus d'État, plus de classe politique, plus d'élections depuis une décennie et plus de blancs pour prétendre jouer un rôle. Les anciens colons et français et américains regardent ailleurs.
Incroyable. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent, qui est l'un des rares à parler d'Haïti dans les médias français, je crois. Peut-être le seul même.
Mais c'est à une heure de Pointe-à-Pitre, ouais, de Fort-de-France.
Merci beaucoup, même Vincent. Pas.
7h46. 7h, 9h, Europe 1 matin.
Nicolas Caro, ce matin, un livre sur les relations ambiguës entre un écrivain et un criminel.
Le journaliste et l'assassin, c'est le titre réédité aux éditions du Sous-Sol, signé Janet Malcolm. C'est une histoire incroyable, à tiroir, attention. Une histoire à trois étages même, comme le dit Emmanuel Carrère dans la préface.
Qui est bien placé pour parler du rapport entre littérature et crime.
Exactement, puisqu'il a lui-même écrit un livre génial sur Jean-Claude Roman, entre autres, L'Adversaire. Mais donc là, nous sommes aux États-Unis en 1970, en Caroline du Nord. Le criminel, c'est Jeffrey McDonald, un médecin militaire accusé d'avoir tué sa femme enceinte et ses deux petites filles de 5 et 2 ans. L'horreur. Or, il clame son innocence. Selon lui, 4 intrus, 3 hommes et une femme drogués, sont entrés chez lui et ont tué tout le monde, à la manière de la Manson Family. Il est d'abord blanchi par un tribunal militaire, mais un autre procès doit avoir lieu, et voici Joe McGinnis, un journaliste, auteur d'un livre à succès sur le président Nixon. McGinnis contacte McDonald et il signe un contrat. McGinnis racontera son histoire et il aura l'exclusivité de ses témoignages, en échange de quoi McDonald touchera un tiers des recettes. Le procès a lieu, ça dure des semaines et McDonald est finalement condamné à plusieurs peines de prison à vie. Vous savez comment ça se passe là-bas. Entre-temps, les deux hommes ont créé un lien d'amitié et McGinnis écrit même à McDonald en prison. Ils entretiennent une relation épistolaire très, très, très saine, très belle en fait. McGinnis lui dit à quel point il est désolé pour lui.
Et alors le livre hein.
Eh bien, il est écrit et publié. Et quand McDonald le lit, il croit devenir complètement fou. McGinnis le charge à mort et raconte même qu'en l'ayant côtoyé, il a pu se rendre compte à quel point c'était un dangereux psychopathe et qu'il était coupable sans aucun doute.
Quel ami.
Et McDonald porte plainte pour tromperie et violation de contrat. Et c'est ça ce que raconte Janet Malcolm, journaliste aussi au New Yorker. Le rapport entre le journaliste et son sujet. Jusqu'où peut-on aller pour obtenir la vérité? Est-ce que d'ailleurs, ça en fait un gage de vérité? C'est pas sûr non plus. Est-ce que l'on peut faire partie soi-même de l'histoire? Parce que McGinnis défendait McDonald au quotidien, conspuait ses détracteurs sans arrêt. Le fait divers en lui-même est complètement dingue. Les protagonistes sont complexes et le livre de Janet Malcolm est une leçon de journalisme, même si on passe son temps à être d'accord, pas d'accord avec elle. Et c'est aussi une plongée dans la psychologie des relations humaines.
Très intéressant. Hein, Le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm, c'est chez qui comme éditeur?
Édition du Sous-Sol.
Édition du Sous-Sol, voilà, ouais, petit livre très, rouge très et gris, voilà, un peu pour très, le repérer sur l'étal. Sortie cinéma à présent, Laurie Choleva, cette semaine vous avez un coup de cœur pour Agnès Jaoui.
Bah oui, toujours un coup de cœur pour Agnès Jaoui, d'ailleurs il y a deux semaines elle recevait un César d'honneur bien mérité. Aujourd'hui on la retrouve dans un rôle comme on n'a encore jamais vu, dans La vie de ma mère, un premier long métrage de Julien Carpentier qui a reçu d'ailleurs le prix du public au dernier festival d'Angoulême. Alors elle joue aux côtés de William Legbill, une mère atteinte de bipolarité et après 2 ans sans voir son fils, elle s'échappe de l'hôpital dans lequel elle est soignée et elle débarque sans prévenir dans la vie de ce dernier, Pierre, un fleuriste heureux et bien tranquille.
J'en peux plus de tes humeurs.
C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer.
En plus, j'ai l'impression d'être un flic qu'un fils.
On peut pas la forcer à soigner.
Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi ?
C'est pas exprès d'être comme ça.
J'ai déjà envie de pleurer. Écoutez la bande-annonce, La vie de ma mère, c'est ce mélange tragicomique qui fonctionne à merveille, 24 heures au cœur de cette relation si particulière qui est rythmée par les sauts d'humeur liés à la maladie, ce duo mère-fils terriblement touchant. Et puis, si le sujet de la bipolarité est traité, si justement, c'est parce que c'est un sujet personnel pour le réalisateur qui s'inspire de sa maman. C'est un vrai rôle de composition pour Agnès Jaoui, qui passe de l'hystérie la plus totale à une vulnérabilité poignante. Et elle le dit en interview, un rôle pareil, c'est un cadeau. Et bien, bien, j'ai envie de vous dire que ce film, c'est un cadeau pour nous et mention spéciale pour William Legbill, hein, qui est remarquable face à Agnès Jaoui, qui est d'ailleurs immense. Donc, voilà, très, très beau film.
La vie de ma mère. Alors, on a entendu le début d'un autre extrait à l'instant.
Ni vu ni connu.
Voilà, c'est l'autre film que vous avez retenu cette semaine, dont le thème, c'est la santé mentale, les cures de bien-être.
Oui, c'est ça. En fait, c'est Maxime Gasteuil, hein, l'humoriste qui s'amuse de ça dans la comédie 14 jours pour aller mieux. C'est son premier grand rôle au cinéma et s'inspire de ses cures de bien-être, de développement personnel pour livrer un film drôle et touchant réalisé par Édouard Pluvieux, son copain. Il joue le rôle d'un cadre qui est obsédé par sa carrière, qui est imbuvable et qui va être entraîné par son beau-frère dans ce qu'il considère être son pire cauchemar, ce stage de bien-être.
Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer.
Bah c'est super pour avec toi.
Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, désolé.
Ah, on t'a dit 4 jours, c'est 14.
Voilà, c'est une comédie moderne sur la quête de sens dans nos vies avec Zabou Breitman. J'ai envie de dire un peu comme Agnès Jaoui, comme vous l'avez rarement vu.
Voilà, il était l'invité de Culture Média hier.
Oui, on a beaucoup rigolé.
Maxime Gasteuil, à réécouter sur Europe1.fr.
Laurie, on vous retrouve samedi 19h-20h. Clap, c'est l'émission cinéma d'Europe 1 avant d'aller voir les films, évidemment. Samedi, vous serez aux côtés de Nicolas Duvauchel pour le film Les Rois de la Piste qui sortira mercredi prochain.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurie. Merci Nicolas. Merci Vincent. À demain. Dans un instant, l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers. Juste après, le journal permanent Nina Pavan.
La députée insoumise Ercilia Soudé porte plainte pour viol contre son compagnon Damien Cassé, lui aussi militant à LFI. Il est en garde à vue depuis hier soir et conteste formellement ses accusations selon son avocat. Adieu, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, grandiose avec 1 million de spectateurs sur les quais de Seine le 26 juillet prochain. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé hier soir le plan de sécurité final. La jauge du public est rabotée à 300 000 spectateurs. Adolescents interpellés hier en France, suspectés d'avoir été en contact avec la cellule terroriste démantelée en Belgique plus tôt cette semaine, accusés d'avoir préparé une attaque djihadiste sur une salle de concert belge. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, victoire 2-1 hier soir face à la Real Sociedad de San Sebastián.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour
à tous.
Vincent.
Vincent, vous voulez nous parler ce matin de la France insoumise et de la gauche radicale. On ne peut pas dire que les sondages soient très bons pour eux en ce moment. Et pourtant, vous considérez, Vincent, que l'influence de Jean-Luc Mélenchon et de ses épigones reste considérable.
Oui, il suffit de suivre l'actualité, Dimitri. Il y a 10 jours, à la surprise générale, Emmanuel Macron a proposé des prix planchers pour les agriculteurs. C'était une idée originale de la France insoumise. Avant-hier, le Congrès a voté à la quasi-unanimité une proposition de loi de Mathilde Panot, le texte sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. En 10 jours, le gouvernement a fait sien 2 textes venus de chez Jean-Luc Mélenchon. Et puis, si on va sur le fond, il faut se pencher sur un événement très révélateur du poids de la position des insoumis sur Israël. C'était en Seine-Saint-Denis, une soirée organisée dimanche soir par la mouvance décoloniale autour de l'intellectuelle américaine Judith Butler.
Alors, pouvez-vous rappeler, Vincent, aux auditeurs d'Europe 1 qui l'auraient oublié, qui est Judith Butler?
Alors, elle n'a rien à voir avec Red Butler, le héros d'Autant en emporte le vent, mais on peut dire que toute l'œuvre de Judith Butler a pour but d'anéantir l'archétype de l'homme occidental. Née aux États-Unis dans une famille juive, l'intellectuelle s'est fait connaître en 1990 avec son best-seller Trouble dans le genre. Elle est devenue depuis la papesse de la théorie du genre, cette théorie qui considère que masculin et féminin sont des constructions sociales sans aucun substrat biologique. Figure de proue du mouvement queer, Judith Butler considère qu'il faut détruire toutes les oppressions sur lesquelles reposeraient nos sociétés, la nation, la religion, la culture, la famille, et jusqu'aux éléments les plus intimes de l'anthropologie. En fait, Judith Butler incarne le point ultime, radical du progressisme, que l'on peut voir aussi, c'est mon cas, comme un nihilisme intégral. Sur Israël, Judith Butler disait en 2006 qu'il fallait, j'ouvre les guillemets, considérer le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements sociaux progressistes qui font partie de la gauche mondiale. Alors en novembre, elle a publié un texte pour dénoncer les violences du Hamas, mais dimanche donc, elle a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance et elle a ajouté que le massacre du 7 octobre n'était pas une attaque terroriste ou antisémite, mais j'ouvre les guillemets, un soulèvement armé. Elle a donc appuyé de son autorité qui est grande à gauche, le discours de relativisation, voire de négation du pogrom du 7 octobre que l'on entend depuis 5 mois chez les amis de Madame Obono.
Mais Vincent, vous pensez que l'influence de Judith Butler dépasse les cercles de la gauche radicale ?
Elle est très importante, cette influence. Ses théories sur le genre se retrouvent dans les discours politiques de la gauche urbaine, mais ils déteignent sur le centre. Et on les trouve désormais dans les manuels scolaires ou dans les séries Netflix. Ces propos sur Israël sont ceux que l'on entend dans les grandes universités américaines, comme dans nombre d'instances internationales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'études de genre ou défense du Hamas obéissent à la même logique. Dans cette logique folle, les queers et les islamistes sont victimes du même oppresseur occidental et colonial. Alors on rappellera tout de même à ces idéologues que les 15 pays qui criminalisent encore l'homosexualité sont islamiques et qu'à Gaza, un homosexuel risque 10 ans de prison. Dimanche, Madame Butler a affirmé, j'ouvre les guillemets, que le 7 octobre était un soulèvement qui résulte d'une situation de soumission, un soulèvement contre un appareil d'État violent. Cela s'apparente tout simplement à de l'apologie du terrorisme. Pourtant, Judith Butler sera bientôt reçue pour un cycle de conférences à l'École normale supérieure. Elle est pour un mois l'invitée d'honneur du Centre Pompidou. Avez-vous vu, Dimitri, une pétition d'artistes ou d'associatifs pour s'en choquer? Une commission d'enquête parlementaire pour s'en étonner? Des tribunes dans la presse de gauche pour s'en émouvoir? Non. Tout ce monde-là est trop occupé à chercher des poux à Sylvain Tesson, à Alain Finkielkraut ou à Sonia Mabrouk.
Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1 et la une du Figaro. Je ne l'ai plus en tête, si vous l'avez Vincent, au secours.
C'est les initiatives solitaires de Macron qui déroutent la majorité.
Absolument.
Très intéressant papier de Louis Osalte.
J'allais le dire, papier absolument remarquable, vous avez raison de le signaler. Merci beaucoup Vincent, à demain.
Il est 7h56 sur Europe 1, excellent début de journée. Nous sommes le mercredi 6 mars et c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'excellent et du très drôle Jean-Luc Lemoyne que vous retrouvez tous les matins à 9h30 après le journal dans Culture Média.
Bon anniversaire Jean-Luc et nous fêtons ce jour Sainte Colette de Corbie en Picardie. Colette qui fut une religieuse clarisse et fonda 18 monastères au 15e siècle. Bon réveil avec Europe 1 au programme de la prochaine heure avec Emmanuel Ducrot. Nous nous étonnerons de cette enquête IFOP qui révèle qu'un jeune sur cinq de moins de 24 ans ne sait pas reconnaître une courgette. Oui, il y a un problème d'identification des fruits et des légumes. Dans un quart d'heure, face à Sonia Mabrouk, le politologue Dominique Régnier sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Nous sommes le mercredi 6 mars, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Comment faire court au milieu des cocktails Molotov? Comment enseigner quand on est menacé de mort? Les faits de violence à l'école se multiplient ces derniers jours. Exemple au lycée de Cachan, pris d'assaut hier et avec le témoignage fort d'une proviseure prise à partie par une parent d'élève. L'actualité également aux États-Unis pour le Super Tuesday. Les Américains prennent les mêmes et recommencent. Donald Trump et Joe Biden, tous deux largement en tête des primaires dans leurs camps respectifs. Et puis les ambitions revues à la baisse pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce qui monte, en revanche, c'est la polémique autour de l'affiche amputant le dôme des Invalides de sa croix. Juste après ce journal, 8h10, la grande interview Europe 1 CNews. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité Dominique Régnier, politologue et directeur de la Fondapol, la violence au cœur de l'école après les scènes de guérilla urbaine à Cachan. Ce que reste-t-il de la puissance ou plutôt de l'impuissance politique et les conséquences sur les Européennes?
Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. C'est le jour d'après au lycée de Cachan dans le Val-de-Marne. D'après une façade et des poubelles incendiées, d'après des policiers blessés pour avoir protégé l'établissement scolaire de dizaines d'individus masqués. Il s'est greffé à un blocus qui dénonce la vétusté du bâtiment. Bonjour Wilfried de Villers.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Vous êtes pour Europe 1 devant les portes du lycée, les élèves arrivent, c'est calme, mais au prix d'un impressionnant dispositif policier.
Oui, des fourgonnettes de CRS sont stationnées aux alentours du lycée. Des policiers sont également présents à l'entrée de l'établissement. Des élèves à qui je parlais ce matin me disent n'avoir jamais vu un tel dispositif sécuritaire, ni avoir assisté à de telles violences devant leur lycée. Asma, en classe de seconde, est venue en cours avec une certaine appréhension après ces événements.
C'est un peu trop dégénéré. Enfin, les jeunes, ils ont commencé à faire n'importe quoi.
T'en as parlé à tes parents ?
Oui, ils ont vu. Ils m'ont dit de rentrer, voilà. C'est inquiétant de voir son enfant dans des lieux comme ça, avec du feu, des jeunes qui font n'importe quoi.
Alors ce matin, il est toujours difficile de comprendre qui est à l'origine de ces violences. Des lycéens auraient eu l'intention de mener une action, mais pas un tel blocus qui dégénère. Les professeurs en ont parlé à leurs élèves hier après-midi, quand les cours ont pu reprendre, comme le détaille cet enseignant.
On essaye de sensibiliser un peu nos jeunes élèves à leur faire prendre conscience que ces événements sont quand même graves et que voilà, à rester spectateurs, ils encouragent aussi ces actes de violence.
Le directeur du lycée a également envoyé un mail à tous les élèves pour les rassurer. Pour le reste, ce matin, c'est un retour presque à la normale pour les lycéens qui affluent toujours pour se rendre en cours.
Ah, Wilfried De Villers en direct de Cachan pour Europe 1. Merci Wilfried, et je rappelle qu'un jeune homme a été interpellé pour les heures d'hier.
Un récit de violence contre les établissements qui s'ajoute à celle vécue par les professeurs, cible d'agressions verbales et physiques de plus en plus souvent. C'est l'objet d'un rapport que doit rendre public le Sénat aujourd'hui.
Des enseignants en première ligne et bien souvent démunis, surtout lorsque les menaces viennent des parents d'élèves. C'est arrivé la semaine dernière à Claudine, proviseure dans un lycée parisien. Encore choquée, elle a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat au micro d'Europe 1.
La mère de l'élève s'est levée et m'a dit qu'elle savait dans quel arrondissement de Paris j'habitais, qu'elle allait me retrouver. Elle m'a dit « on vous retrouvera ». En sortant du lycée, elle dit à un certain nombre d'élèves, la proviseure, cette grosse pute, « je vais niquer sa mère ». Ça fait 13 ans que je suis personnel de direction et c'est la première fois que j'ai comme ça une menace de parents. Je me dis « il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas montrer aux jeunes qu'on a peur ». Mais c'est vrai que là, les derniers événements nous ont montré quand même que ça pouvait aller loin. Il y a des digues qui ont été rompues. On est perçu comme des ennemis. On n'est pas perçu comme des partenaires. Et ce qui me frappe, c'est vraiment cette défiance. Et c'est vraiment, je trouve que cette année, c'est très, très marqué. C'est très violent. C'est très violent.
Le témoignage recueilli par Camille Moreau pour Europe 1.
Europe 1 matin, il est 8h05.
Je crois à un État fort, mais pas à un État qui devient une pompe à fric. La petite phrase de Bruno Le Maire ce matin dans les colonnes du journal Le Monde.
Le ministre de l'économie qui cherche à faire 10 milliards d'euros d'économies en 2024 et qui n'exclut pas un budget rectificatif soumis au vote à l'été et qui annonce également la fin des CERFA d'ici à 2030, ces nombreux formulaires administratifs que doivent remplir les entreprises.
Direction les États-Unis maintenant pour un Super Tuesday aux airs de déjà-vu. Joe Biden et Donald Trump propulsés vers un nouveau duel pour la présidence.
15 États votés pour les primaires des républicains, du Parti républicain et du Parti démocrate. On vous retrouve au Texas, Sébastien Lebelzig pour Europe 1. Et l'actuel président américain, tout comme l'ancien, n'ont laissé que des miettes à leurs concurrents.
Oui, un super Tuesday, super surtout pour Donald Trump, hein, qui a très largement gagné ses primaires républicaines. Un seul État sur les 15 qui votait ce mardi lui a échappé, le petit État du Vermont. C'est donc un carton presque plein pour Trump, qui s'est exprimé mardi soir depuis son QG de Floride.
Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le super mardi. C'est un grand mardi. Et ils me disent, les experts et autres, qu'il n'y en a jamais eu de semblable, qu'il n'y a jamais rien eu d'aussi concluant. C'était une nuit incroyable, un jour incroyable, une période incroyable de l'histoire de notre pays.
Alors du côté des démocrates, là encore, pas de surprise. C'est Joe Biden qui a largement remporté les primaires. Et donc Trump-Biden, ce sera bien l'affiche de la prochaine présidentielle de novembre aux États-Unis, avec les derniers sondages qui sont plutôt favorables à Donald Trump.
L'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Lebelzig aux États-Unis.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera-t-elle vraiment une grande fête populaire? Eh bien, pas sûr, au vu des annonces hier de Gérald Darmanin.
326 000 spectateurs accueillis contre 600 000 initialement prévus. Déjà, il y aura moins de monde. Et pour l'essentiel, ce sont des invitations des partenaires de l'événement. Le ministre de l'Intérieur qui précise que l'espace aérien sera fermé dans un rayon de 150 km autour de la capitale le soir du défilé, le 26 juillet prochain.
Et puis, l'affiche des Jeux Olympiques, elle, continue de faire polémique.
Elle est colorée, elle est joyeuse, ultra détaillée, avec de nombreux monuments, oui, mais il y a des manques qui font bondir notamment la droite. Aucun drapeau français, et puis le dôme des Invalides amputé de sa croix. L'œuvre est exposée sous la nef du musée d'Orsay, et elle interpelle aussi les visiteurs qu'Alexis de la Fléchère est allé rencontrer pour Europe 1.
C'est sur un panneau XXL de 5 mètres sur 4 que cette affiche des JO est présentée. La disparition de la croix au sommet du dôme des Invalides choque Thomas, étudiant de 25 ans.
Si l'histoire chrétienne fait partie de l'histoire du pays, pourquoi l'enlever? Enfin, là, ça devient volontaire. On enlève des choses sur des bâtiments. Donc non, je suis vraiment, vraiment opposé.
L'absence de cette croix interroge aussi Patrick, la cinquantaine.
Mais c'est pas un oubli de sa part, c'est volontaire? C'est ça la question se pose. Ouais. Ils auraient dû la laisser, puisqu'elle y est en réalité. Je vois pas qui ça peut gêner. En France, il y a des églises partout.
Hein. Même constat pour Pierrette, une Lilloise de passage à Paris.
Bon, je suis pas choquée en tant que croyante, mais on met les choses dans leur réalité.
réalité. Donc la réalité, il y a la croix.
Une croix qui disparaît, un drapeau français qui manque pour Pauline.
Il n'y a pas vraiment les couleurs de la France qui ressortent, il y a plein de couleurs. C'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un, mais après c'est pas quelque chose qui m'a dérangé directement, j'avais même pas fait attention.
Des visiteurs troublés, parfois attristés, qui comprennent que le sujet puisse faire polémique.
Alexis de la Fléchère, et puis on a tous essayé de la chanter un jour. Bohemian Rhapsody de Queen. Alors n'essayez pas, Dimitri, s'il vous plaît. De toute façon, vous ne ferez pas mieux que 500 voix pour Queen.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Oh, j'en suis sûr. C'est une chorale d'amateurs qui font le tour des zéniths de France et qui cartonne en ce moment. Le reportage de Marie Jiquel.
Il faut plusieurs minutes aux 500 choristes pour s'installer sur la scène du zénith. Une chorale géante d'amateurs recrutés localement.
À chaque date, c'est différent, c'est jamais les mêmes choristes. Ce sont des choristes en fait, qui sont dans le secteur où on chante. C'est des gens qui font qu'une seule date, donc pour eux, c'est un moment extraordinaire. Ils pourront dire, ah ben moi, j'ai fait un zénith.
Aurélien Vivos, gagnant en titre de The Voice, officie lui en tant que soliste.
On ne fait pas copier-coller de Queen. Les chansons sont réarrangées pour qu'on puisse mettre en valeur nos voix aussi, et puis bon, les choristes, bien sûr.
Comme Queen, lors de ses concerts légendaires, le spectacle mélange les genres. Les solos de guitare se marient aux airs d'opéra.
Quand on est sur la scène, derrière, on a la puissance des 500 voix, ça nous porte. Et devant, il y a l'adrénaline aussi du public qui est là, qui nous regarde. C'est très puissant comme sensation et particulier.
Et ce cœur de 500 chanteurs pulse pour honorer le royaume intemporel de Queen.
We are the champions. Le Paris Saint-Germain, tiens, en football, ne l'est pas encore champion.
Quelle transition.
Mais
magnifique.
Il s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire de 2-1 contre la Real Sociedad.
Merci. Grâce à deux buts signés Kylian Mbappé.
Bravo à lui.
On le dit.
Et merci à lui.
Merci beaucoup, Victor Pourchet. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le politologue Dominique Reynier face à Sonia Mabrouk.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, Dominique Reynier, l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Dominique Reynier.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol. Hier, Dominique Reynier, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine qui se sont déroulées devant le lycée de Cachan dans le Val de Marne. Véritablement, c'est un lycée qui a été pris d'assaut. Les groupuscules, ou en tout cas groupes encagoulés, ont blessé des policiers et renversé une voiture. Il y a eu une seule interpellation. Comment est-ce que tous ces délinquants se permettent cela ? Aujourd'hui dans notre pays, est-ce que c'est la faiblesse de l'État de manière générale ?
Alors, il y a bien sûr, quand vous citez un événement comme celui-là, il y a des éléments que moi je n'ai pas. Il va y avoir des explications, il y aura des causes particulières, et je les ignore. Hein. Donc ce que l'on peut peut-être dire, pour ne pas trop spéculer, c'est que de toute façon, cette scène prend place dans une société dont on sait maintenant qu'elle n'a plus de principe de régulation. Il n'y a plus d'autorité régulatrice. C'est pas simplement l'État qui est en effet lui-même très inhibé et qui ne, le législateur, l'État, la classe politique, toute sensibilité confondue, est très inhibée sur la question de l'autorité et de l'ordre, comme si nous n'en étions plus capables. Mais c'est aussi l'ensemble de ce qui fait tenir une société, et ça c'est plus grave, je dirais. Alors la liste, on la connaît bien, hein. Ce sont les familles qui sont déstructurées, ce sont les partis qui ne sont plus qui n'ont plus d'influence, les syndicats qui en réalité sont des groupes très très minoritaires maintenant et très isolés au sein du monde social. C'est aussi la religion qui n'a pas le même visage et qui n'a pas la même fonction. Ce sont les réseaux sociaux qui hystérisent la vision du monde et les rapports. Et puis c'est aussi une hyperviolence historique. Nous sommes dans un monde hyperviolent. Nous ne cessons pas de voir, et en particulier à nouveau sur ces médias continus qui sont à la fois un progrès et puis un défi, nous ne cessons pas de voir des scènes extrêmement violentes. Et ça, ce sont des spécialistes, psychiatres, psychologues, neurologues qui pourraient en parler. Mais ça a évidemment des effets, parce que maintenant ça fait un quart de siècle que ça existe, ça a des effets sur la psyché de nos enfants, la psyché des jeunes, qui deviennent adultes. Et même ça a des effets sur les plus anciens qui se sont mis à ce régime médiatique.
Mais quelle leçon politique, Dominique Régnier, parce que malgré tout, il y a quand même une responsabilité évidemment première de l'État. Par exemple, est-ce qu'on a tiré... Moi, quand j'ai vu ces images hier, ça m'a rappelé peu ou prou les émeutes qui ont secoué le pays il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, plus largement, en 2005, on vit des sortes de rémanences, hein, de ces sortes de scènes de violences urbaines. Est-ce qu'on a tiré quand même les conséquences dans notre pays de tous ces épisodes?
Moi, je ne trouve pas... Je ne trouve pas qu'on en a tiré les conséquences. En tout cas, si ça a été fait, ça n'a pas été dit, ce qui est la moitié du chemin, je dirais, qu'il fallait faire, fallait nous l'expliquer. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut aussi prendre du recul historique, se dire que quand ce genre de scène se passe, ça signifie, pour moi, inévitablement, qu'il y a une sorte de recherche du point d'ordre au cœur de la société, et que l'on avance au fur et à mesure que, au fond, on ne rencontre pas la résistance que l'on s'attendait à rencontrer.
Intéressant, donc ce sont des coups de boutoir en réalité.
Des coups de boutoir.
Et ça ira aussi loin qu'il y a
absolument
une forme d'impuissance et d'inhibition en face.
Absolument. Et je dirais même, je le dis avec une forme d'assurance, parce que pour moi c'est de la logique sociale. Nous irons jusqu'à un chaos dramatique, ou bien, si nous ne réussissons pas à agir avant, jusqu'à une réaction hyper autoritaire. Mais il ne sera pas possible de demeurer dans une situation qui continuerait ainsi, comme nous le voyons, année après année, à produire des phénomènes que nous ne connaissions pas, qui sont mal expliqués, pas expliqués du tout, et qui sont cependant inacceptables. Il est certain, ça c'est à la fois, je dirais, la psychologie, l'éducation, mais aussi la société, il est l'ordre, le gouvernement, au sens fort, il est certain que si l'on ne craint pas l'autorité, ça ne tient pas. Il faut que la crainte revienne parmi les individus qui sont gouvernés.
C'est très intéressant. Vous avez employé, j'allais dire, le mot magique, autorité. D'ailleurs, tous les responsables politiques disent autorité, autorité, autorité. Mais quelle autorité? Autorité de l'État, autorité parentale, autorité professorale, sans cesse
absolument
remise en cause. On a vu ce cas de ce proviseur qui a demandé à une élève d'ôter son voile et qui a été la cible de menaces de mort dans le pays de Samuel Paty, de Dominique Bernard. Comment aujourd'hui? Voilà, ce sont ces coups de boutoir aujourd'hui.
Oui, à chaque fois. En fait, nous n'avons pas réagi suffisamment. Je ne veux pas être injuste avec ceux qui font des efforts, que ce soit la police, le corps enseignant, les différents ministères, parce qu'on est toujours un peu rapide là-dessus. Il y a des gens qui travaillent tous les jours à faire en sorte que ça ne se produise pas ou que ça ne se reproduise pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de grandes logiques, de grands mécanismes, et que de toutes parts, j'aimerais par exemple moi avoir la statistique, je ne l'ai pas, hein, peut-être que c'est une vue personnelle, mais je suis frappé de voir le nombre d'automobilistes qui grillent les feux rouges. Et donc je me dis, est-ce que c'est simplement ici? Est-ce que c'est un phénomène général? Est-ce qu'il y a un irrespect de ce type de règles fondamentales qui mettent en péril la vie des autres, etc.? Donc c'est en tout sens que ça va se produire. Et là, logiquement, ce qui n'est pas interdit devient autorisé. Ce qui n'est pas sanctionné devient possible.
Revendiqué, assumé et parfois même, j'allais dire, porté fièrement.
Absolument. Dès lors que vous n'avez pas... En réalité, c'est l'absence de risque qui fait que l'on avance ainsi. Ce n'est pas la naissance du courage, c'est l'absence de risque. Et donc, nous devons avoir une réponse étatique et sociale. Mais là, ça appelle chacun aussi à sa propre responsabilité de parent, dans son métier, dans son rapport aux autres, dans le débat, etc. La société ne se tient plus, en fait. Je trouve, ça c'est le point moi, le plus inquiétant, parce que jusqu'ici, j'avais plutôt le sentiment que la société continuait à se tenir, mais si ça se délite parce que l'État, les pouvoirs publics, les gouvernants, nos pouvoirs ne sont pas, semble-t-il, capables, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ils ont l'air de craindre d'en appeler
à... craindre le chaos, où alors que peut-être par leur inaction, certains, est-ce qu'ils ne sont pas en train de le provoquer?
Ah oui, moi je pense qu'ils craignent davantage d'être craints.
Mais c'est un cycle.
C'est absurde parce que c'est leur rôle.
Mais oui.
Il ne faut pas venir au pouvoir pour être aimé. On peut être reconnaissant de ce que vous faites, on peut vous reprocher votre politique, mais on ne peut pas, que l'on vous aime ou pas, ça n'a aucun intérêt. Et si on a ce goût d'être aimé, il vaut mieux faire autre chose que de la politique. Donc ceux qui gouvernent, c'est amer, c'est ingrat, c'est ainsi. Mais la société a besoin d'une direction qui réinjecte de la crainte, fondée bien sûr sur des principes moraux qui nous sont communs, sur la justice, sur la dignité et la liberté évidemment qui doit prévaloir comme principe principe général, mais il faut une remise en ordre de la société.
Là, c'est pour des défis à long terme, alors qu'il y a urgence. Et justement, Dominique Régnier, nous verrons dans quelle mesure tout cela, tout ce que vous décrivez, va jouer et compter en vue des élections européennes. Le Rassemblement national tutoie les 30% dans les intentions de vote, soit 10 points. Parfois même, j'ai vu 12 points de plus que la majorité, selon certains sondages. Et on peut remarquer, et là, votre analyse est précieuse pour nous, que le RN capte l'électorat populaire, je veux dire ça, c'est depuis un certain temps, mais aussi les CSP+, les fameuses professions libérales. Est-ce que c'est devenu un parti attrape-tout, le métro à 18h, comme on disait à un moment?
Oui, ça commence à ressembler à ça. Bon, la comparaison n'est pas forcément aisée. Ben non, parce que il est clair que le Rassemblement national est en train de devenir, en tant que parti, beaucoup plus marqué. Alors, dans son discours sur l'autorité, l'immigration, encore que ça reste très 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 euphémisé par rapport au passé, parce qu'il y a cette quête de la normalisation, comme l'on dit, c'est clairement en train de devenir un parti de la droite en France. Toute la droite ne s'y retrouve pas, une partie reste au LR, une autre partie encore aujourd'hui accrochée au macronisme et à ceux qui peuvent en sortir. Mais il est clair que le Rassemblement national est devenu un parti très solidement installé. On va voir quand même.
Intéressant. Est-ce que vous le compareriez, Dominique Régnier, pardonnez-moi, au RPR à peu près des années 90, pour ceux qui s'en souviennent, c'est peu ou prou le même thème.
Oui, c'est ça. Alors, justement, il manque un élément. On comparera ça, moi j'attends ça avec intérêt, 2026, on verra si aux élections municipales, il y a un frontisme municipal, comme il y avait autrefois un communisme municipal. S'il y a un frontisme municipal, l'affaire est entendue. C'est fini, la droite ne pourra plus, la droite classique ne pourra plus se remettre avant très très longtemps de ce qui lui arrive, parce qu'elle perdra les bases qui font aujourd'hui qu'elle tient encore le Sénat, par exemple. Mais ça va être très important, parce que voter pour le RN aux européennes, c'est une façon de dire sa colère, peut-être même d'éprouver une forme de jubilation, parce qu'on voit le trouble que provoque ce type de résultat électoral. Mais voter pour que sa commune soit RN, c'est différent. Et donc là, on aura une vraie mesure, je pense, de l'enracinement ou pas du RN, puisqu'aujourd'hui, paradoxalement, que ce soit le macronisme, le RN ou la France insoumise, ce sont trois forces politiques qui existent au niveau national qui n'ont aucune base régionale, locale, tout à fait détachée de la réalité du terrain qu'ils évoquent pourtant très souvent.
Il y a quelque chose de frappant, Dominique Régnier, par rapport à ce qui se passe en Europe, et donc c'est le paysage de ces élections européennes, c'est la poussée du vote. Alors certains disent anti-Europe, alors pour une autre Europe, et cette fièvre, cette poussée, elle vient des pays fondateurs de l'idée même, de l'esprit européen. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué en tant que politologue?
Oui, on vient de citer le Rassemblement national, donc ça c'est la France. On peut citer Fratelli d'Italia pour l'Italie, on peut citer l'AFD pour l'Allemagne, on peut citer le Parti de la Liberté pour les Pays-Bas, on peut citer le Vlaams Blanc, ou l'Alliance pour la Flandre libre pour la Belgique. Donc, à part le Luxembourg, tous les pays fondateurs doivent être cités pour fournir, et ce sont des pays peuplés, l'Allemagne, la France, l'Italie, vont fournir beaucoup de députés européens, dont beaucoup seront, de la mouvance, soit de Marine Le Pen, soit de Giorgia Meloni. Ce sont les deux groupes qui vont progresser le plus au Parlement européen. Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'analyse de ce vote-là. Il y a de la protestation, mais nous savons aussi que les électeurs de cette Europe fondatrice, comme de l'Europe actuelle, ne veulent pas quitter l'Union.
D'accord, ils ne veulent pas quitter l'Union, mais Dominique Régnier, ils ne veulent pas d'une logique maastrichtienne de l'Europe depuis le traité de Maastricht, si on comprend bien.
Ils ne veulent pas quitter l'Union, ils veulent encore moins quitter l'euro. C'était très étonnant de voir que l'euro est même plus populaire que l'Union européenne.
Alors que veulent-ils? C'est quoi cette autre Europe? Plus souveraine, plus protectrice des nations?
Mon interprétation, c'est que les Européens ont tous compris qu'ils ne pèseraient pas seuls face au monde épouvantable que nous voyons, impressionnant, oui. Épouvantable, oui. Impressionnant que nous voyons, et qu'il fallait donc être unis, mais qu'être unis, ça signifiait avoir une puissance publique supplémentaire, pas nécessairement à la place des autres, c'est pas le fédéralisme auquel aspirent les Européens, pas du tout, mais une véritable puissance européenne, une puissance en plus qui naît de cette union et qui protège les Européens.
Et vous écoutez, c'est l'Europe des nations du général de Gaulle.
Moi, je crois que l'Europe actuelle, il lui manque trois choses pour que les Européens s'y retrouvent. Il manque la défense des frontières, comme si c'était au fond les frontières d'une nation, la défense bec et ongle des frontières.
Il manque d'assumer la nécessité d'avoir une puissance commune, militaire, policière, économique, etc. Et enfin, d'être capable de défendre une identité européenne.
Hein, avant, vous parlez de souveraineté européenne. Certains affirment, je ne sais pas quelle est, comment vous analysez cela, qu'il y a une contradiction entre souveraineté européenne et souveraineté nationale parce qu'il n'y a pas de nation européenne, puisqu'il n'y a pas de peuple européen.
Alors moi, je parlais d'identité européenne.
Ah hein. Oui, c'est différent.
Mais on peut parler du mot souveraineté, vous avez raison. Sans être trop long là-dessus, souveraineté, ça signifie pouvoir supérieur. Il y a bien une souveraineté des Européens en tant que peuple. Il faut bien enregistrer leurs préférences. Et lorsque les Européens sont amenés à dire ce qu'ils veulent, cela devient de la souveraineté populaire. Et donc il y a une tension entre différentes souverainetés, nationales, européennes ou populaires, mais on s'y retrouve sans difficulté. Et on a tort de dire qu'il n'y aura pas de souveraineté européenne parce qu'il y a des souverainetés nationales. Il peut y avoir, et c'est ce que fait l'Europe depuis si longtemps, une invention d'un phénomène unique, très singulier, qui combine ces différentes formes de souveraineté.
Ce qui est contesté apparemment par beaucoup de peuples.
Ce que trouve aujourd'hui, ce que ressentent, alors je les fais parler, c'est un peu rapide, mais enfin ce que ressentent les Européens aujourd'hui, c'est que, je prends deux exemples, ils se déploient des politiques pénibles pour les Européens qu'ils n'ont pas demandées, par exemple cette forme de transition écologique, on l'a vu dans le domaine agricole. Ça n'a pas été débattu, je ne sais pas à quel moment on a voté pour un programme comme celui-là, on s'en souvient pas, et il est appliqué avec une ferveur incroyable. Et de l'autre côté, il y a une demande, je l'ai dit, de frontières, de contrôle de l'immigration et d'intégration, et malgré les appels répétés nationalement ou au plan européen, et c'est très clair que tous les Européens y aspirent, je parle des individus, ça ne vient pas. Donc une Europe qui fait ce que vous ne voulez pas et qui ne fait pas ce que vous voulez, ça ne peut pas aller.
Et pour conclure, face à cette Europe-là, et on verra comment elle va se dessiner après les élections européennes, il y a une Amérique avec un duel retour qui se dessine, Trump-Biden, et Donald Trump qui enchaîne, Dominique Régnier, les victoires et confirme sa marche vers l'investiture américaine. Je lisais un papier sur, il confirme sa marche quand même dans beaucoup de catégories de population, là encore peut-être une comparaison avec le RN, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est un grand tremblement historique qui est à l'œuvre. Après les 370 millions d'Européens qui vont voter le 6 et 9 juin, il y aura les élections américaines et nous saurons, je pense, le 6 novembre prochain si le monde démocratique a basculé dans le chaos. Je le crois vraiment, c'est un moment de ce type, hein, un grand moment. On s'en rendra compte collectivement, j'espère pas trop tard, parce que ça peut créer des effets d'affolement et de panique, mais nous sommes dans une situation extrêmement grave, et il est temps de se repolitiser au sens noble du terme, de s'intéresser fortement et vite aux affaires publiques, pour être sûr que ce qui va nous arriver est ce que nous voulons.
C'est intéressant, pour conclure, vous dites monde démocratique, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères que nous avons reçu au grand rendez-vous dimanche, il a l'air depuis des années d'ailleurs sur un Occident qui se pense encore comme centre du monde, un monde démocratique dominant et arrogant face à un sud global, même s'il n'aime pas l'expression.
Il a raison. Mais juste un mot là-dessus, l'Occident ne se pense plus rien du tout. Et c'est pour ça qu'on mime, en fait. On reprend les mots qu'on a toujours utilisés parce qu'on ne sait pas quoi dire. On reprend les gestes qu'on a toujours eus parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est une espèce de pantomime. C'est tragique. Si nous avions une vision de l'histoire, de notre situation et de ce que nous pouvons faire, nous aurions des mots inédits, des propos régénérés et nous ferions sens. Là, c'est assez tragique et ça a été repéré par les pouvoirs autoritaires qui attendent leur heure.
Merci Dominique Régnier, c'était passionnant. Merci de vous écouter. J'espère, je suis sûre que ça l'a été pour nos auditeurs et téléspectateurs CNews et Europe 1. Bonne journée, à bientôt.
Merci.
Merci Dominique Régnier, Sonia Mabrouk, on vous retrouve dans un instant avec nos signatures Europe 1, à commencer par Gaspard Proust, à tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
8h31 sur Europe 1, Gaspard Proust dans un instant, juste après le journal permanent à 8h31, Christophe Lamarre.
Reprise des cours sous haute surveillance policière ce matin à Cachan, près de Paris, après les violents affrontements entre bandes de jeunes et les policiers. Un adolescent de 17 ans a été interpellé et deux fonctionnaires blessés. Ces scènes de chaos interrogent le politologue Dominique Régnier. Selon lui, les conséquences des émeutes de l'été dernier n'ont pas été tirées. Le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin. Aux États-Unis, le match retour de la présidentielle 2020 se dessine à l'issue du Super Tuesday. Donald Trump pour les Républicains et Joe Biden pour les Démocrates ont largement dominé les primaires organisées simultanément dans 15 États.
Merci Christophe. Le temps à présent, Anissa Dadi, c'est dans le sud que la journée sera la plus belle.
La plus
belle. D'accord. Non, je pensais football, donc je dis balle.
Bien sûr, non, mais pensez à ce que vous voulez. Des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, en passant par le golfe du Lion, le soleil irradie aujourd'hui avec Mistral et Tramontane qui soufflent encore jusqu'à 70 km/h. Sur tout le reste du pays, c'est très nuageux ce matin, quelques averses sur la façade atlantique. Le ciel va se dégager au fil des heures et puis on a toujours de la neige en montagne entre les Vosges et les Alpes. À partir de 800 mètres, la neige tombe et le risque d'avalanche n'est plus là. Les températures 8 à 17 degrés.
Merci Anissa Dadi.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 programme d'ici 9h. Le zapping politique signé Dimitri Vernet. Emmanuel Ducrot nous détaillera ce sondage qui révèle qu'un jeune sur cinq ne sait pas reconnaître une courgette. Ils confondent les courgettes avec les concombres, certains avec les aubergines.
Bah là, ce n'est pas la même couleur.
Non, ça n'est pas la même couleur, vous avez tout à fait raison. Au moins, vous savez ce qu'est une courgette.
Et une aubergine.
Bien
et
joué,
une
aubergine. Anissa. Formidable.
La revue de presse d'Europe 1 dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour à tous.
Dans les journaux ce matin.
Eh bien, du foot, de la politique. Je vais vous parler également de saucisses vegan et d'un appartement hors normes.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, sur Europe 1, 8h33, on attend Dominique Reynier qui ne saurait tarder pour écouter avec nous Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Je suis effondré. Hier matin, j'ai pêché.
Comment ça?
Je sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti du studio, j'ai vu un Libé qui traînait dans le coin, erreur de débutant, je l'ai ouvert.
Et alors, ça s'est bien passé?
Alors évidemment, c'était le numéro sur la enfin l'IVG là, les heures les plus incandescentes de notre histoire, une blanche colombe s'est levée, enfin un truc couru d'avance quoi, l'œuf Kinder au chocolat transparent, au plastique translucide, enfin zéro surprise. Et à côté des pages consacrées à la constitution des rebis repetita, un édito sur le sujet avec le titre, alors accrochez vos ceintures, titre de l'édito près du truc sur l'IVG, savourez. Le sujet, c'est l'IVG dans la Constitution. Tout ce que le type trouve à dire, c'est savourer. Alors juste, je rappelle ce que signifie le mot savourer. Goûter de manière à prolonger le plaisir, à le rendre plus délicat, plus intense. Pour lui, t'as l'impression qu'à Versailles, il venait de trouver une nouvelle recette de mojito. Hein? Alors, je sais pas, Dimitri Seyo, non, mais t'as un sujet à minima sensible et complexe. L'éditorialiste, tout ce qu'il va de sortir, c'est le champ lexical de Top Chef. En tout cas, moi, je ne serai pas de ceux qui vont tomber dans la Mathilde.
Tomber dans la Mathilde, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une nouvelle expression pour dire tomber dans le panneau.
Bon, on en revient quand même tout le temps aux insoumis,
Gaspard. Oui, je suis désolé, c'est pas que j'aime particulièrement parler d'eux tous les jours, mais honnêtement, ces gens-là se reposent jamais. En fait, LFI, c'est pas la France insoumise, c'est la France insomniaque. C'est quand même un hamster qui tourne H24 dans une roue reliée à une machine à acheter des épluchures sur tout ce qui passe.
Faites référence à cette campagne d'affichage où on peut voir la phrase entre autres. Christophe Barbier vote et vous, Pascal Praud vote et vous, Nathalie Saint-Cricq vote et vous, etc.
Ouais, déjà moi j'aime pas tellement qu'on stigmatise Nathalie Saint-Cricq, hein, parce que quand t'as une crevaison sur le bord de l'autoroute, t'es bien content d'avoir un cric dans le coffre.
Ah oui, donc ça c'est un jeu de mots pourri du jour là.
En effet.
Oui. Et il y a aussi cette autre campagne où on voit Mathilde Panot sur la même affiche que Simone Veil.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien. Mathilde Panot est collector, elle est collector, quoi. Les années 90, c'était blouson chevignon, les pins. Les années 2000, l'iPod. 2010, Facebook. Ben, les années 2020, c'est les années Mathilde Panot, quoi. C'est la Hélène et les garçons des années 2020. Après le miel et les abeilles, le Nutella, les marcassins. Voilà, oh, c'est comme ça.
Ça vous a choqué, vous, cette affiche de Mathilde Panot face à Simone Veil?
Bah, Mathilde Panot face à Simone Veil sur les mêmes affiches. Pourquoi pas Nabila face à Marie Curie ou Staline face au Dalai Lama? Enfin, c'est plus de la récup, c'est un braquage. Mais Dimitri, ce matin, scoop Europe 1, nos auditeurs se demandent sans doute, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête et comment qu'ils se sont mis d'accord pour oser mettre Simone et Mathilde sur la même affiche?
Alors, est-ce que vous avez des infos d'ailleurs?
De premier ordre, parce que moi, au Politburo de LFI, j'ai mes petites souris, enfin mes gros surmulots.
Ah, racontez-nous.
Alors, la légende raconte que pour se mettre d'accord sur cette affiche, ça s'est passé comme ça. À un moment, il y a le grand Manitou, là, Jean-Luc à bras raccourcis de LFI, là, qui a dit « Bon, les enfants, faut qu'on récupère cette histoire, la récup, c'est notre truc, on n'est pas des voleurs de poules de la mémoire pour rien, faut qu'on trouve un truc pour tout ça, ce qu'on dit, c'est grâce à nous. » Et là, Mathilde lève son petit doigt et Jean-Luc « Oui, madame ordre alphabétique. » Et là, pourquoi qu'on ferait pas des affiches? On m'associerait avec Simone Veil, ça serait classe. Comment ça, il est pas frais mon poisson? Et là, t'as Jean-Luc, non mais arrête de déconner, il y a le submarine, il y a une limite. Et là, Mathilde insiste, non mais Jean-Luc, c'est tout le temps moi qui prends la foudre. J'ai quand même parfois l'impression de les chemins des dames sur lequel on fait rouler un menhir toute la journée. À un moment, mince, zut, crotte, zobi la mouche, voilà, ils sont fous ces Romains. Et là, ça, ils ont essayé de la raisonner. Réfléchis bien, Mathilde, à ton âme et conscience. Est-ce que tu te sens à l'aise d'être sur la même affiche qu'une personne qui aurait sans doute déclaré que le Hamas était une organisation terroriste? Et là, grand silence, un diable passe, et Mathilde, elle insiste, non mais enfin Jean-Luc, si un jour tu voulais faire une affiche face à De Gaulle, Jésus, Ben Laden ou Claudia Schiffer, moi je te soutiendrais, ou tu y réagirais, jusqu'au bout du monde. Il est frais mon cabillaud ce matin. Alors tu vois, l'autre, ça l'a flatté, il est content. Et là d'un coup, Adrien Quatennens qui se réveille, Et les gars, vous avez fumé ou quoi? Mathilde face à Simone. Autant Shrek, d'accord, mais pas Simone. On va passer pour des cons, personne ne va y croire. Et là, Mathilde, qui sort de ses gongs, c'est le jour où on a entendu la phrase qu'on pensait jamais entendre chez les filles.
Ah. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas.
Tout en gueulant. Ah ouais? Et tu crois qu'on te mettrait face à qui, toi, Katniss? Bertrand Cantat? Super Tramp?
Et comment ça s'est terminé?
Ah bah là, Jean-Luc a calmé les esprits. Camarade un peu tenu, est-ce que pour se réconcilier, on ferait pas plutôt un truc pour défendre notre ami Gérard Miller?
Ah oui.
Et là, Mathilde, ah ouais, mais on ferait quoi? Et là, idée lumineuse de Boyard, c'est bientôt le salon de l'horlogerie. Gérard, face à un pendule à hypnose avec le slogan « On l'a fait ». Ça le fait, Jean-Luc?
Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ça le fasse.
Non?
Non, pas évident.
Vous savez, c'est une boîte à idées, ça réfléchit.
Mais dites donc, vos surmulots ramènent des super infos en tout cas. Merci beaucoup Gaspard Proust. On se retrouve demain matin.
Les surmulots du scope.
Alors restez avec nous d'ailleurs parce que vous avez aimé les polémiques autour des Jeux Olympiques. Vous allez adorer celles entourant à venir. Hein, l'Euro de football en Allemagne, c'est Olivier Delagarde qui nous raconte ça dans sa revue de presse dans un instant.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
8h41 sur Europe 1. Si vous voulez faire le point sur l'actu de la journée, ne manquez pas Punchline tous les jours sur Europe 1.
Oui, du lundi au jeudi, dès 18h, Laurence Ferrari et ses invités débattent, analysent et décryptent l'actualité de la journée. Rendez-vous donc tous les jours, 18h, 19h sur Europe 1.
Et l'on pourra rebondir tout à l'heure dans Punchline sur l'un des titres de la revue de presse d'Olivier Delagarde qui est avec nous. Olivier, on commence cette lecture des journaux avec l'homme du match, comme on dit dans les commentaires sportifs.
Irremplaçable, titre même, l'équipe ce matin, parce qu'on allait voir ce qu'on allait voir, eh bien on a vu Mbappé. Grande Espagne, annonce déjà un peu amer le Parisien en première page, parce que bien sûr l'attaquant du PSG jouera au Real dans quelques mois, mais en attendant, hier il a été déterminant sur la pelouse des Espagnols de San Sébastien, marquant les deux buts de son équipe et la propulsant ainsi en quart de finale de la Ligue des Champions. Irremplaçable, on vous dit.
Alors après l'homme du match, on en vient à celui qui semble un peu à côté de ses pompes en ce moment.
Emmanuel Macron a effectivement perdu la Grinta, écrit Yves Tréhard, qui lui aussi file la métaphore footballistique. La Grinta, explique-t-il à la une du Figaro, c'est ce petit plus qu'ont les footballeurs au-dessus du lot. Parce que la différence de Mbappé, notre président est en train de perdre tout le monde, affirme le journal. Les initiatives de Macron déroutent même la majorité, annonce le quotidien en gros titre. Ukraine, crise agricole, RN, sur la scène nationale comme internationale, les coups d'éclat créent le tour, trouble jusqu'au sein de ses troupes. Un élu qui préfère rester anonyme confie à lui aux haltères. Pour la première fois dans des cercles macroniens, la question du comportement du président est clairement posée. Il a le syndrome Barack Obama, diagnostique aussi un ministre, en référence à l'élection de Donald Trump. Le risque est grand de s'enliser dans une fin de règne solitaire, parsemée de messages obscurs. Et si en 2027, il donne les clés à Marine Le Pen, commente le député Renaissance Patrick Vignal, il sera le seul responsable parce qu'il ne pourra même pas diluer la responsabilité.
L'esprit de défaite serait-il en train de souffler sur l'Élysée?
Je reconnais bien là votre esprit facétieux, Dimitri. L'esprit de défaite, c'est effectivement la nouvelle formule utilisée hier par Emmanuel Macron. Et les mots sont à nouveau forts, souligne Henri Vernet du Parisien. Il y a 8 jours, sa sortie sur un éventuel déploiement de troupes occidentales en Ukraine avait provoqué un tollé chez les alliés, note-t-il également. Mais à Prague, comme à l'Élysée, le président n'a pas parlé sur un coup de tête, affirme-t-il. Sa petite phrase sur la lâcheté, l'esprit de défaite, il l'a préparée selon un proche. Alors on verra dans les heures qui viennent quelle va être la réaction des 10 alliés, et notamment des Allemands qui étaient apparemment visés, même avec un solide sens de l'humour. Les Bavarois risquent de ne pas apprécier qu'on les qualifie de Munichois.
On reste en Allemagne et on revient au football.
Oui, parce que dans 100 jours débute l'Euro outre-Rhin, le championnat d'Europe de foot. Les préparatifs vont bon train, signale Alexis Menuge dans l'équipe, et ça va être super. Le comité d'organisation vient d'annoncer la mise en place de toilettes non genrées dans tous les stades. L'offre de plats végétariens sera plus forte que jamais. Des plats sans alcool, sans gluten, sans lactose, sans noix seront proposés aux supporters. Miam. Des saucisses seront véganes. Remiam, la cigarette évidemment interdite sur tous les sites. Toutes ces mesures ont un sens, se réjouit la coprésidente du parti écologiste au pouvoir. Faire en sorte que l'Allemagne soit considérée comme un pays moderne, c'est vous qui voyez. Mais on va terminer avec le plus français des Allemands, même si après avoir vécu 60 ans dans notre pays, il continue à conserver ce petit accent inimitable. Je veux bien sûr parler de Karl Lagerfeld, le Kaiser de la mode, disparu en 2019, directeur artistique de Chanel notamment. Alors pourquoi parler de lui, me direz-vous ? Eh bien parce que son appartement est mis en vente. C'est le Parisien qui est allé le visiter. Bon, c'est un peu cher, mis à prix 5,3 millions, mais... le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait l'autre, parce qu'effectivement, ça vaut le coup d'œil. Il est situé quai Voltaire, avec vue imprenable sur la Seine, les Tuileries, le Louvre. L'immeuble est fin 17e, mais l'appart, lui, est futuriste. C'est un 3 pièces de 256 mètres carrés.
Oh le délire.
Pour vous donner
256 mètres carrés.
Pour vous donner une idée, ça fait un séjour qui ressemble un peu à la gare de l'Est, sans y plaindre. La poursuite de la visite est tout aussi surprenante, raconte Anne-Laure Abraham. De simples plans, pans de verre amovibles séparent le salon de la chambre où il dormait. Seule la cuisine est de taille modeste. De toute façon, il ne prenait aucun repas chez lui, car les odeurs l'incommodaient. Bref, un personnage. Il a d'ailleurs légué une partie de sa fortune à son chat. Dans un autre genre, Lagerfeld, c'était un peu le Mbappé du style.
Irremplaçable, j'allais vous le dire. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1 tous les matins, 9h-20, juste avant l'entrée en studio de Pascal Pro. Bonjour Pascal.
Comment allez-vous?
Mais très bien, et vous? On vous retrouve à 11h avec les auditeurs Pascal Pro et vous.
Écoutez, je trouve qu'il manquait à cette France... un observatoire.
Ah oui.
Et il a été créé, et vraiment, il faut remercier le gouvernement qui a créé l'observatoire de la haie. H-A-I-E.
Absolument.
La haie, c'est comme vous le savez, qui est la clôture végétale qui sert à limiter ou à protéger un champ, selon la définition du dictionnaire. Donc, on parle du choc de simplification, on parle d'attaquer la bureaucratie, le salon de l'agriculture se termine, et que dit Marc Fesneau ? Nous allons créer un observatoire de la haie. H-A-I-E. Ça manquait. Ça manquait.
L'observatoire des haies.
Alors, je pense que s'ils creusent un jour, ils vont trouver du pétrole.
Oui.
C'est possible, parce que quand tu en es là à créer un observatoire de la haie, moi, j'ai proposé que ce soit Guy Drut qui soit champion olympique.
Je crois qu'il est aux affaires
d'un oui. Au 110 mètres. Ouais.
Oh, ah oui, je ne l'avais pas, bien sûr.
Donc, Guy Drut qui soit effectivement préposé à cela. Alors, ça peut faire sourire.
Je crois qu'on peut demander à Emmanuel, vous suivez ces genres d'affaires.
En fait, il existe déjà cet observatoire, il est logé dans l'IGN.
Ah.
Mais il faut revoir un peu les méthodes de calcul, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres. Donc ça peut avoir un intérêt. Je serais moins sévère que vous, Pascal.
Moi, la bureaucratie me fait peur, et en plus, c'était une annonce quand même de Marc Fesneau. Donc il y a quelque chose de politique là-dedans. C'est-à-dire que je crée cet observatoire pour répondre à une crise, en l'occurrence, des agriculteurs. Écoutez, j'entends ce que vous dites, mais ça me surprend néanmoins. On pourra parler des chefs d'établissement qui sont en danger, c'est pas la première fois que nous le disons. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. On pourra parler de ce qui s'est passé à Cachan hier également, et puis de la sortie d'Emmanuel Macron qui, d'une certaine manière, persiste et signe. On ne veut jamais voir les drames qui viennent, on ne veut jamais voir ce qui se joue, a-t-il dit. Alors, il parle évidemment de Vladimir Poutine. Peut-être pourrait-il également adapter cette phrase à ce qui se passe en France.
Voilà, et c'est la conversation commence avec vous, Pascal, dès 9h, l'heure des pros. Et c'est à 11h pour participer. Chers auditeurs, vous êtes les bienvenus sur l'antenne d'Europe 1. On rappelle le numéro, Anissa Dadi.
Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal ? Regarde, il rigole.
Mais d'habitude, vous souriez.
Ah, bah, je vous souris.
Là, vous êtes sérieuse, c'est pour ça.
J'étais concentrée pour donner le numéro dans l'ordre.
Allez, merci. Oui, voilà. C'est pas, comme,
c'est pas évident.
C'est pas comme le loto, hein. Ça marche pas dans l'ordre. Si ça n'est pas dans l'ordre. À tout de suite, Pascal, rendez-vous dans 10 minutes. Emmanuel Ducrot, vous nous parlez ce matin alors des résultats d'un sondage qui vous a laissé perplexe. Mais vous n'êtes pas la seule. Un sondage consacré par l'Institut Harris Interactive à l'alimentation quotidienne des Français. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête ?
Alors, c'est un sondage large qui s'intéresse à toutes les habitudes, à la préparation des repas, aux liens perçus entre la santé et l'alimentation. Les résultats ont été dévoilés hier par Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, qui veut s'attaquer à la malbouffe et il y a du boulot. Alors, il y a un point qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Parce que l'étude révèle qu'un jeune de 15-24 ans sur 5 ne sait pas reconnaître une courgette. 18% d'entre eux pensent que c'est un concombre, 2% que c'est une aubergine, pourtant ça ne se ressemble quand même vraiment pas. On apprend aussi dans cette enquête que 12% des jeunes ne distinguent pas un pamplemousse d'une orange.
Bon, on pourrait rire de l'ignorance, mais ce serait quand même passé à côté du sujet, vous nous dites.
Bah oui, ça a été mon premier réflexe de rire, mais si ces jeunes ne reconnaissent pas ou connaissent mal ces légumes, c'est parce qu'ils ne voient pas leur famille les acheter et les cuisiner. Seuls 46% des familles cuisinent tous les jours ou presque. Pour les autres, plus de la moitié des foyers donc non. Et on apprend en observant. Résultat, moins d'un tiers des jeunes adultes cuisinent au quotidien. Ce sont des enseignements qui se perdent.
Qu'est-ce qui explique cette évolution de la société vers le fait de ne plus se faire à manger ?
Eh bien, les spécialistes de la nutrition soulignent le fait que dans les foyers monoparentaux, cuisiner, c'est souvent ingérable. Le sociologue de l'alimentation, Éric Berlouès, qui fait un très bon travail, me l'expliquait l'année dernière. C'est plus facile pour un couple, pour un cadre, avec du télétravail, de cuisiner des produits frais plutôt que des produits transformés. Mais ces plats tout prêts simplifient la vie des familles monoparentales moins fortunées avec des journées très longues. Et en 15 ans, la part de ces familles monoparentales a doublé dans la société et 85% de ces familles ont à la tête une femme.
Et ça a des conséquences sanitaires qui frappent principalement les plus modestes.
Ben oui, parce que quand on ne cuisine pas, on se nourrit de plats transformés, de fast-food. Ça, c'est ce que montre cette étude qui a été publiée hier. Autant dire que les 400 grammes de fruits et légumes par jour recommandés par les programmes de santé passent à l'as, remplacés par du trop gras, du trop salé, du trop sucré. Les maladies du métabolisme, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires explosent. Les chiffres de Santé publique France montrent qu'elles frappent bien plus les milieux modestes, et ça dès l'enfance. À 10 ans, les enfants des classes populaires ont deux fois plus de risques de surpoids que les enfants des cadres. Vous voyez, on aurait tort de rire de cette histoire de courgette, ça va bien au-delà de ça.
Oui, vous dites qu'il y a un sujet de justice sociale derrière cette courgette.
Oui, l'État devrait souvent se mêler plus de ce qu'il regarde, mais clairement, l'éducation alimentaire fait partie de ces sujets-là parce que c'est un sujet de santé. Là aussi, il faut simplifier les messages. On a emberlificoté l'esprit des Français avec trop d'injonctions à base d'AMAP, de circuits courts, de bio, de local, de saison, de petits producteurs, de bilan carbone comparé, de légumes oubliés, des messages qui ne s'adressent qu'à ceux qui ont le temps et les moyens et qui en fait alimentent la fracture alimentaire. Alors il faut reprendre les bases, hein. Bio, pas bio, frais, en conserve, surgelé, peu importe. Faites simple, cuisinez des légumes bruts pour votre santé et votre budget. Et si l'école a un rôle à jouer dans tout ça, c'est peut-être celui qu'elle avait jadis. Pas de la morale alimentaire, mais de la leçon de choses et de l'économie domestique.
Voilà, on apprend à faire à manger, tout simplement. Mais est-ce que les profs savent faire encore à manger ?
Ça, c'est une vaste question.
Ils ont déjà plein de choses à enseigner.
Ils ont beaucoup de choses à faire.
Oui,
mais
effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, Signature Europe 1, 8h52.
7h, 9h. Europe 1 Matin.
Et c'est l'heure du zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Après Macron joue aux policiers, Macron joue aux moniteurs de ski, voici le retour de Macron joue au chef de guerre.
La guerre est revenue sur notre sol. Des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Il conviendra de ne pas être lâche.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Maurice, véritable cavalier de l'apocalypse.
L'amour du risque, c'est la passion explosive. La mort, le feu de l'éclair.
Un cavalier qui, rappelez-vous, disait ça en 2017.
Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse.
Archive importante pour comprendre le fond de la nouvelle polémique. Concernant l'affiche officielle des JO 2024, affiche sans aucun drapeau français, où la croix chrétienne du Dôme des Invalides a été effacée, une fausse polémique pour la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot.
Ce n'est qu'un dessin. Oui, la Tour Eiffel n'est pas rose. Oui, le Stade de France ne va pas d'un seul coup venir se mettre en lévitation sur la Tour Eiffel. La mer ne se voit pas depuis Paris. Stop aux polémiques.
Mais oui, voyons, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un dessin. Ah là là, allez, un petit peu de fond. François-Xavier Bellamy était sur BFM TV.
C'est le symptôme d'un vieux mal français. Un vieux scrupule de la gauche en particulier qui, dans notre pays, a toujours eu du mal avec l'idée de l'identité. Et que cette histoire, elle plonge ses racines aussi dans le christianisme.
Vous avez entendu ce qu'est... Douce France, cher pays de mon enfance.
Douce France, qui vient donc de constitutionnaliser l'IVG. Et comme le redoutaient les sénateurs de droite, la boîte de Pandore est donc désormais ouverte. Le député LFI Emmanuel Bompard nous l'a bien montré sur France 2.
La bataille continue pour faire en sorte que ce droit soit effectif. Vous avez
donc supprimer la clause de conscience.
Oui, bien sûr, parce que c'est un obstacle à faire en sorte que ce droit qui est désormais reconnu dans la Constitution puisse être effectif.
Et la clause des consciences des médecins. Je précise.
Oui, en moins de 24 heures, la loi Veil et son équilibre tanguent déjà. Les mots de Gabriel Attal lors du Congrès sonnent bien différemment aujourd'hui.
Rien, plus rien ne peut arrêter la marche du progrès.
Allez, on termine avec l'héritière de Simone Veil, Mathilde Panot. Oui, elle s'auto-surnomme comme ça. L'insoumise, pas vraiment en forme sur Public Sénat.
Je dis merci aux associations droits inscrits dans la Constitution, ce qui veut dire qu'il y aurait eu. Je rappelle que lors de les élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à la présidentielle, suite au non-respect de cadre collectif, donc elle a toujours resté dans le groupe.
Beaucoup d'hésitations, de fautes de français.
C'est la fatigue, ça.
La fatigue, non, ouais. Non, non. Tout ça n'est pas arrivé par hasard, Dimitri. La députée est devenue fébrile après une question du journaliste. Oui, on se serait vraiment cru dans un jeu télé.
Vous appelez à la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain.
Pourquoi cette question ? Je comprends pas votre question. Voilà.
Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain ? Du fleuve Jourdain ?
Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire.
Géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine ?
Nous appuyons sur les résolutions de l'ONU.
Je fais appel à l'ONU ! C'est bizarre, je pensais pourtant que Simone Veil était forte en géographie.
Il est en forme.
C'est
pas,
oui, c'était
maintenant.
Une question difficile.
La question difficile, oui, c'est évidemment.
Voilà, mais vous avez raison, un coup de fil aux Nations Unies dans ce cas-là, c'est la solution.
L'appel à un ami toujours.
Oui, bah écoutez, merci beaucoup Dimitri Vernet. Toujours un plaisir. Demain c'est Jérôme Béglé qui officiera.
Vendredi.
Et on se retrouve vendredi. Allez, Culture Média dans une petite demi-heure à 9h30. Nos invités ce matin, Anissa Dadi.
Éric Antoine pour le retour du Juste Prix sur M6. C'est lui qui va présenter le Juste Prix. Et puis en deuxième heure de 10h à 11h, Raphaël Personnaz et Anne Fontaine pour le film Boléro.
Et puis Pascal Praud dans un instant sur Europe 1. L'info continue. Bonne journée.